Dimanche 3 juillet, soyez les bienvenus. Il est 6h.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe naturellement. Première édition. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Nos vacances peuvent-elles être perturbées par le Covid ? Dans la restauration, on craint le retour de mesures restrictives.
Comment faire si votre compagnie aérienne vous a laissé en plan ? Pouvez-vous être remboursé en cas de grève ? C'est un peu le sujet du moment. On y revient dans un instant.
Et puis l'exploit du jour hier à Wimbledon, il est signé Alizé Cornet, la Française, a sorti la numéro 1 mondiale.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger pour le Quintet à Paris. Longchamp, Mélanie Gomez et Julia Vignali nous diront ce qu'il faut manger pour rester hydraté. Et puis on écoutera bien évidemment Mathieu Noël. Mais d'abord la tendance météo avec vous Valérie Darmon. Bonjour Valérie.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Très beau temps partout avant que le ciel ne se dégrade du sud-ouest aux Alpes et des températures qui montent encore dans le sud-est.
Météo complète dans 7 minutes. Alors nos vacances seront-elles perturbées par le Covid ? Les restaurateurs commencent à le craindre.
Oui, il faut dire que le nombre des hospitalisations est en hausse. Le taux d'incidence, lui, a augmenté de 53% en une semaine. Et avec les vacances qui arrivent et les touristes qui se massent, eh bien, les restaurateurs ont un peu peur que de nouvelles restrictions soient mises en place. Arthur Pereira est allé dans un bar de la capitale où l'inquiétude se fait de plus en plus ressentir.
Seul derrière son bar, Jérôme prépare les cocktails pour la clientèle. Une clientèle au rendez-vous malgré l'augmentation récente du nombre de personnes positives au Covid-19. Inquiet, il craint la mise en place de nouvelles mesures.
Ça va être usant pour nous, pour tout le monde, les touristes qui ne vont pas revenir dans les bars. Déjà que ça a beaucoup changé les habitudes, ouais, c'est inquiétant.
Qu'importe les restrictions, le restaurateur est bien décidé à les respecter pour maintenir l'activité de son bar.
Si dans un premier temps, c'est que le personnel qui doit porter le masque, on portera le masque. Et si on nous demande d'accueillir moins de gens à l'intérieur, ben on sera obligé d'accueillir moins de gens à l'intérieur. Tout pour éviter une fermeture du bar. Quoi.
Assis au comptoir, Henri et Marie partagent une bière pour le mariage civil d'une de leurs amies. Masque sous le menton, ils ont décidé d'être plus prudents.
Au boulot ou dans les transports, parce que par rapport à mes collègues, ils ont eu le Covid là récemment, donc c'est reparti, on le sent que ça revient.
Les vacances arrivent bientôt, et donc on doit prendre l'avion et notamment aller vers les États-Unis, donc c'est plus là-dessus.
Malgré les 125 000 nouveaux cas recensés hier, aucune mesure n'est pour le moment envisagée par le gouvernement pour le secteur de l'hôtellerie-restauration.
Le reportage d'Arthur Pereira à Paris pour Europe 1.
Et puis je vous le disais, on en reparlera largement tout à l'heure à 8h10 avec mon invité Benjamin Davido, l'infectiologue à l'hôpital de Garches près de Paris.
Alors des perturbations, il y en a dans les airs et pas qu'un peu. Des dizaines de vols annulés à Roissy hier depuis jeudi à cause d'un conflit social. 1 sur 5 sur la journée d'hier et un préavis de grève qui est déjà déposé pour le week-end prochain qui va marquer le début des vacances scolaires. Alors comment se faire rembourser ? Quels sont vos droits en matière d'annulation ? Voici les explications de Jérémy Rosenberg. Il est directeur des opérations chez Air Indemnité, une entreprise qui sert d'intermédiaire entre les usagers et les compagnies aériennes.
Lorsqu'un billet est annulé, donc la compagnie doit rembourser le billet si elle n'a pas proposé de vol de réacheminement aux passagers. Donc il y a, si on doit être très très exhaustif, les frais de prise en charge. Donc si votre vol est retardé de plus de 2 heures, la compagnie doit vous proposer des frais de restauration pour patienter jusqu'au vol. Si jamais votre vol est annulé avec un report au lendemain, la compagnie doit prendre en charge les frais d'hôtel liés à l'annulation qui vont engendrer des frais supplémentaires. Et au-delà du remboursement de tous ces frais, si le passager n'a pas été prévenu au moins 14 jours avant la date du vol, elle doit lui verser cette indemnité compensatoire au regard du préjudice subi de 250 à 600 euros. Qui dépend, elle, de la distance du vol.
Jérémy Rosenberg, directeur des opérations chez Air Indemnité.
6h04, la politique à présent. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à l'épreuve du remaniement.
Après 15 jours de flottement, le gouvernement Borne 2 est attendu vraisemblablement demain. Double conseil des ministres, déclaration de politique générale. Emmanuel Macron est pressé d'accélérer, il veut reprendre la main. Alors qui pour remplacer ? Amélie de Montchalin à la transition écologique, Brigitte Bourguignon à la santé et Justine Bénin à la mer, puisque toutes les trois ont été battues aux législatives. Les téléphones risquent de sonner aujourd'hui.
Et lui a dû sans doute prendre le sien pour appeler le JDD. Éric Coquerel se défend ce matin.
Le député insoumis qui a été élu président de la commission des finances de l'Assemblée se justifie après avoir été mis en cause pour son comportement avec des femmes. Dans une tribune, il se défend de toute violente, contrainte physique ou psychique envers les femmes. Il dénonce des rumeurs infondées.
Le reste de l'actualité à présent. Fontainebleau et son théâtre accueillent tout le week-end le festival festival Série.
C'est le rendez-vous des professionnels d'un secteur très prospère, comme en témoigne la dernière saison de la série Stranger Things que les ados adorent, et de ses multiples records de visionnage. Une 11e édition qui est par ailleurs teintée par les événements en Ukraine. Décryptage de Marie Jiquel.
Dans sa vie d'avant, en Ukraine, Katerina Wisniewska produisait des séries d'action aux intrigues sombres. Installée désormais à Londres, la productrice n'a pas franchement le cœur à se plonger dans un nouveau feuilleton.
De regarder un programme à nouveau, ce sera comme une petite victoire.
Depuis plusieurs années, et l'écho international de la série Le Serviteur du Peuple, porté par l'actuel président Zelensky, l'Ukraine est devenue un acteur incontournable de la production de séries en Europe, ralentie par la guerre, mais pas bloquée.
On fuit et donc on filme tout ce qui arrive. C'est aussi un défi pour les gens et une démonstration de résistance.
Bien sûr, il y aura de nouvelles séries sur le petit écran ukrainien, avec pour toile de fond cette fois-ci la guerre, selon Katerina Wisniewska.
Ce sera toujours des histoires d'amour ou des thrillers, mais la guerre sera le nouveau décor de ces intrigues.
Dernier feuilleton ukrainien tourné avant l'invasion et bientôt diffusé en Europe, Cardamom Coffee, qui raconte une histoire d'amour interdite au 19e siècle à Lviv, un tourment amoureux dans une Ukraine alors en paix.
Et autre idée sortie, le lancement de la fête du cinéma aujourd'hui. Le budget des familles fond à vue d'œil en ces temps d'inflation. C'est souvent l'enveloppe loisirs qui est sacrifiée en premier. Jusqu'à mercredi, vous pouvez aller à n'importe quelle séance pour 4 euros. Et une suggestion justement, Thierry, si
oui.
Vous ne l'avez pas encore vu.
Je l'ai pas encore vu.
Ah bah il faut y aller. Hein.
Ouais.
Tom Cruise.
C'est un carton. Hein.
Le t-shirt blanc de Tom Cruise quand même. Top Gun Maverick, Europe 1 est partenaire du film. 4 millions de Français l'ont déjà vu.
Et, ouais.
Et dans le monde entier, le film a récolté 1 milliard de recettes. Tom Cruise qui a 60 ans aujourd'hui.
Eh ben dites donc, il ne les fait pas.
Pas du tout.
Les sports à présent, les naïcs, on va d'abord saluer l'exploit d'Alizé Cornet à Wimbledon hier.
Elle a éliminé la numéro 1 mondiale, la polonaise Swiatek, en deux manches, 6-4, 6-2. La française va donc en 8e de finale de Wimbledon. Colin Bral, personne ne l'avait vu venir.
Oui, c'est l'impensable qu'a réalisé hier Alizé Cornet. Pourtant, la numéro 1 mondiale paraissait tout bonnement invincible cette année. 37 victoires d'affilée, record du 21e siècle et le titre à Roland-Garros. Mais c'était sans compter sur la niçoise qui a survolé cette rencontre pour s'adjuger un triomphe magnifique, sans équivoque, dans sa carrière.
C'est évidemment une de mes plus grosses victoires en carrière, mais après, j'y croyais. Voilà, tout simplement, j'y croyais. Je me disais que j'avais une chance aujourd'hui de pouvoir la battre et je me suis vraiment accrochée à ça. Pourquoi pas moi, finalement? En tout cas, j'ai une grande fierté d'avoir accompli ça et maintenant j'ai envie que ça continue parce que l'aventure n'est pas finie.
L'aventure londonienne n'est pas finie, mais celle de sa carrière reste pourtant en suspens. La niçoise avait déclaré en mai dernier qu'elle jouait peut-être sa dernière saison avant de déclarer cette semaine qu'elle était comme le bon vin. Plus elle vieillit, plus elle s'améliore, phrase qui laisse penser tout l'inverse. Alors avant de penser à la fin, pensons à la suite. Avec qui sait le rêve d'une victoire finale sur le gazon londonien intact, surtout après un tel exploit.
Voilà, et puis le Tour de France, c'est un Belge qui succède à un autre. Wout van Aert a dépossédé Yves Lampaert de la tenue de leader du maillot jaune hier, lors d'une étape qui a été remportée sur cet énorme pont par le Néerlandais Jakobsen, qui a gagné au sprint.
Le fameux pont de 18 km. Merci, oui. C'était le journal de l'Enaïque Monnier. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Valérie Darmont, du soleil partout aujourd'hui.
Et oui, avec encore sur les côtes de la Manche et en Bretagne un ciel un petit peu voilé, comme hier, et quelques ondées ce matin sur Calais et sur Caen. Partout ailleurs, la journée qui débute sous un ciel largement ensoleillé, même si quelques passages de nuages d'altitude en provenance de l'Atlantique peuvent circuler par endroits. Quelques nuages bas qui sont toujours également présents de la Bretagne aux Hauts-de-France sans conséquence. Puis des nuages qui vont bourgeonner sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central et des Alpes, ainsi que le Jura. Prémisse d'une dégradation qui va débuter dans l'après-midi. Ces premiers orages qui vont se déclencher des Pyrénées aux Alpes en passant par le Massif central, qui vont se renforcer en soirée. Ils sont ponctuellement intenses, avec de fortes rafales possibles, de fortes précipitations, accompagnées d'un risque de grêle. Et la moitié nord, ainsi que la Côte d'Azur et la Corse, restent à l'écart.
On regarde les températures, elles grimpent.
Jusqu'à 38 à Nîmes, et actuellement, à l'heure où on se parle, 24 à Nice. Bon, au même moment, 10 degrés à Caen.
Ah oui, ah quand même. Merci Valérie, à tout à l'heure. Allez, à suivre, bien fait pour vous, conseil santé. Que faut-il manger pour rester hydraté? Mais avant, les pronostics pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour ce quintet à handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 8 ans sur la distance de 2400 mètres avec un favori solide, Panjaman, le numéro 4, qui se recommande d'une louable régularité depuis plusieurs mois puisque lors de ses 10 dernières sorties, il s'est imposé à 4 reprises et n'a jamais terminé plus loin que 5e. Confirmé sur cette distance et sur cet hippodrome de Saint-Cloud, je sais que son entraîneur Stéphane Cérulis serait vraiment déçu de ne pas voir son protégé conclure une nouvelle fois à l'arrivée. L'opposition sera constituée par les numéros 3 Santazo et 6 Breath of Fire, respectivement première et sixième d'un handicap similaire le 5 juin à Chantilly. Et sur la foi de cette performance, ce sont deux priorités absolues. Ensuite, je vous recommande les numéros 8, Baratin, 11, Baden Rocks et 13, Flying Beauty, qui dépendent tous les trois de l'entraînement d'Auvillet, celui de Stéphane Vatel, qui n'aime jamais courir ce type de course sans avoir une réelle chance. Enfin, les numéros 15, Combermer et 2, Mikado, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 3, 6, 8, 11, 13, 15 et 2.
Et merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h11, Europe 1 parle de vous, de nous, avec les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous, tous les matins du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine le médecin nutritionniste Catherine Lacrenière et la critique gastronomique Sylvia Gabé. Question, que faut-il manger pour rester hydraté?
Alors, docteur Lacrenière, on sait que le corps a besoin d'eau, c'est pas un secret pour fonctionner. À partir de quand on parle justement de déshydratation? Qu'est-ce qu'il se passe concrètement dans notre corps?
Alors, il faut déjà savoir que notre corps est principalement composé d'eau, puisque quand on est adulte, c'est à peu près 60%, et quand chez les bébés, c'est jusqu'à 75%.
Qu'est-ce que ça pèse lourd, l'eau, hein?
Ça pèse lourd, oui, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Mais alors, cette eau, on ne sait pas la stocker. Donc, on la récupère dans l'alimentation ou la boisson, et puis on l'élimine par la transpiration dans les urines et aussi par la respiration. Et le problème, c'est que quand on perd de l'eau, c'est ce qu'on appelle la déshydratation, mais on ne perd pas que de l'eau, on perd également des sels minéraux. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir des effets divers et variés qui peuvent être même très dangereux. On parle de déshydratation grave à partir du moment où on perd plus de 5% du poids du corps.
Ah oui, ça va vite.
Vous faites 3 kilos quand vous en faites 60.
Oui, mais justement, docteur, comment on sait qu'on est déshydraté? Parfois, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est quoi les signaux qui doivent nous alerter?
Alors, le premier signal, c'est véritablement, chez la plupart des personnes, la soif, également la sécheresse des lèvres. On peut.
On entend dire souvent que quand on a soif, c'est déjà trop tard. C'est vrai,
c'est que vous êtes déjà en déshydratation. Il faut regarder également l'aspect des urines qui vont se raréfier, devenir plus foncées. Et alors, le problème de la soif, c'est qu'il y a des personnes qui ne la ressentent pas, en particulier les personnes âgées. Dans ce cas-là, il y a un signe très important qui s'appelle le pli cutané. C'est pas très gentil, mais vous allez pincer la personne et si la peau reste plissée, elle ne revient pas à la normale, eh bien c'est qu'on est déjà déshydraté.
Julia, elle est bien hydratée parce qu'il y a rien qui reste coincé dans le pli. Qu'est-ce qui peut nous conduire à être déshydraté? Bien sûr, il y a la chaleur, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent nous déshydrater, d'autres causes?
Oui, alors la fièvre déjà, et puis alors c'est vrai quand vous faites un effort sportif, surtout quand il fait chaud, quand vous travaillez dans une période de canicule. Les vomissements et les diarrhées. Il y a des médicaments, les laxatifs, les diurétiques, il y a des maladies qui sont mal équilibrées. Un diabétique, par exemple, mal équilibré, va perdre de l'eau. Donc, tout un ensemble de choses auxquelles il faut penser. Et puis, l'alcool.
L'alcool, j'allais dire, ça déshydrate. On sait bien, après, parfois, quand on, hélas, on a fait une fête, et ben, le lendemain, qu'est-ce qu'on a soif?
Exactement, parce que l'alcool, voilà, va perturber le fonctionnement d'une hormone qui s'appelle la vasopressine, qui est fabriquée dans notre cerveau par l'hypothalamus, et cette hormone, normalement, elle permet de réabsorber l'eau. Et bien là, elle ne réabsorbe rien du tout. Donc, on perd de l'eau par les urines et on se déshydrate quand on boit trop d'alcool.
Donc, docteur, en fait, la règle, c'est de ne pas boire plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Mais si on boit 3 ou 4 verres, il faut couper avec de l'eau ou pas entre 2 verres?
Il faut boire beaucoup d'eau, mais vous le dites, la prévention, c'est quand même le mieux. Éviter de trop boire.
Eh bien, c'est entendu. Sylvia, on va voir ce qu'il faut manger pour rester hydraté, notamment des légumes, évidemment. Et c'est justement l'objet de votre livre. Nous convertir aux légumes. Mais pourquoi? Les Français, on ne mange pas assez de légumes, nous?
Moi, je ne veux pas culpabiliser les gens. Hein. Je vais quand même plutôt les féliciter parce qu'on en mange plus que certaines nations. Mais c'est vrai qu'on peut faire mieux. Dans le monde, en fait, 75% des denrées consommées sont issues de 12 espèces végétales seulement. Moi, j'en ai mis 33 des espèces dans mon livre parce qu'elles sont disponibles pour nous.
Donc, il y a vraiment des légumes oubliés, comme on dit.
Ah ben, c'est ça, oui. Ils sont revenus, ceux-là. Donc, ça, c'est bien. Puis, il y en a qu'on ne connaît pas, donc on ne les voit pas. On passe à côté d'eux au marché, mais on se demande ce que c'est.
On ne sait pas comment les cuisiner,
en
fait.
Oui, voilà, on sait que cette blette rouge, là, jusqu'à maintenant, on la voyait sur les carrefours, parce qu'elle était juste
décorative. Je crois que je n'ai jamais acheté de blette rouge non plus.
Vous en avez déjà acheté, vous ?
Non, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Pouvez-vous nous la décrire, la blette rouge, quand même ?
C'est flamboyant, c'est magnifique. C'était vraiment une vedette des jardins, mais pour la déco.
C'est un légume feuille, c'est ça ? Donc des feuilles très rouges ou plutôt bordeaux, non ?
Non, elles sont très équilibrées entre le vert et le rouge.
Il n'y avait pas de blanc ? Il n'y avait pas des blettes blanches ?
Alors, il y en a, oui, la blette... Le cœur de carde, même, il est blanc, mais cette blette rouge, là, maintenant, elle passe des fleuristes au maraîcher.
Ah oui, et donc, le goût est bon et on peut faire plein de choses avec cette blette, d'accord. Et même chez ceux qui en consomment des légumes, vous dites qu'on n'est pas si mauvais élèves que ça, les Français, par rapport à d'autres nations. Je crois quand même que vous dites, sans dénoncer personne, on n'est là de toute façon pour culpabiliser personne, mais souvent, les Français ne les préparent pas de la bonne façon. Vous dites, les légumes, quelles erreurs on fait le plus souvent, justement, avec eux?
Bah souvent, on me demande comment les conserver. Alors, je dis, ne les conservez pas.
Mangez-les. Ça se conserve pas longtemps, non, les légumes?
Oui, voilà. Le légume aussi se déshydrate. Donc, on va avoir un maximum de goût et puis l'avoir avec son maximum de fraîcheur qui contient aussi les nutriments.
Pendant combien de jours, à votre avis? Ça dépend des légumes, j'imagine.
Oui, ça dépend des légumes, mais les légumes feuilles, vraiment, il faut les conserver le moins possible pour bénéficier de leur maximum des capacités qu'ils ont à nous offrir. Il ne faut surtout pas les surcuire aussi, ça c'est vraiment un défaut qu'on peut tout de suite corriger.
Ils perdent leurs vitamines en plus, ces légumes, hein, si on les surcuit.
Oui, et puis le al dente, ce n'est pas que pour les pâtes. Quoi. Donc,
ça marche aussi, quand c'est un peu croquant, c'est bon.
Oui,
et donc ça marche aussi pour la blette rouge. Mais pour rester hydraté, en dehors des crudités, il faut éviter, je crois, les plats trop riches en matière grasse. Pour quelle raison? Pourquoi on ne peut pas se faire une petite raclette? J'en connais, moi, des accros de la raclette d'été.
Bah ouais. D'abord, ce n'est pas de saison. On va garder ça pour l'hiver. Vrai. Et puis, ces plats gras, ils sont très peu hydratés. Dans la raclette que vous citiez, il y a 40% d'eau. Donc, on est très, très loin des 95-97%.
D'ailleurs, quand on mange une raclette de nénie, on est complètement déshydraté. On boit toute la nuit. Je sais pas, moi j'adore la raclette. De toute façon, mais bon, c'est pas la saison. Voilà.
Et ce n'est pas tout. Quand vous mangez gras, vous avez encore envie de manger plus gras. Et puis, il ne reste plus beaucoup de place pour les aliments autres. C'est vrai qu'avec votre raclette, on n'a pas forcément envie de se faire une petite salade à côté.
Mais par exemple, une petite blanquette de veau en plein été, c'est pas bien ça? Il y a beaucoup de crème. La crème, c'est pas idéal. Non,
voilà, pour l'été. On va essayer de limiter le gras parce que là, on ne favorise pas notre hydratation.
Couscous, il y a pas de gras. C'est peut-être aussi parce que c'est très riche en calories que ça fait fonctionner notre organisme à plein régime pour digérer. C'est ça aussi. Donc, plus on mange de la calorie, enfin des calories, plus il va falloir
tout à fait. Tout à fait. Vous produisez de la chaleur parce que vous voulez digérer ces aliments qui nécessitent plus de travail. Et donc, là, on va dans le sens de la déshydratation plutôt que de l'hyperhydratation.
Alors, le couscous. Ça marche. Il y a des légumes dans le couscous.
Il y a aussi de la viande. Alors, la viande, c'est pas si mauvais que ça. Hein. Au niveau d'hydratation, on est à 60%. Surtout si elle est crue, on est même à 68%. Par contre, on va choisir des viandes. Pas comme disait notre ami tout à l'heure, pas trop de merguez ni de saucisses, mais plutôt des viandes maigres, du poulet et même des viandes rouges maigres. Mais la viande, ça fait partie de l'hydratation.
Qu'est-ce qui est rouge et maigre, par exemple?
Du filet de bœuf, une bavette. Un tourne-d'eau, voilà tout ça,
c'est
ça fait
très
partie,
bon,
un carpaccio. Et qu'on met ça avec une salade, on est parfait pour l'hydratation.
Bien fait pour vous, c'est du lundi au vendredi, vous le savez, de 11h à midi.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'Info Express à 6h19, Lénaïque Monnier.
Le week-end studio pour l'exécutif avant l'annonce du remaniement à venir sans doute demain. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se rencontrent demain ou mardi, juste avant le discours de politique générale de la chef du gouvernement. Nouvelle mobilisation en France hier pour la défense du droit à l'avortement. Des rassemblements avaient lieu un peu partout. À Paris, ils étaient des centaines à manifester en réaction à la décision de la Cour suprême la semaine dernière aux États-Unis de révoquer le droit à l'IVG. Mais également également pour l'inscription de ce droit dans la Constitution française. Du nouveau dans l'enquête sur l'affaire Carlos Ghosn, deux magistrats et un enquêteur français sont arrivés hier à Tokyo pour en savoir plus sur le présumé schéma de blanchiment en bande organisée. Carlos Ghosn qui se trouve toujours au Liban. Il est visé par un mandat d'arrêt de la justice française. Et puis le tennis, l'exploit d'une Française qui fait la une de l'équipe ce matin, elle a gagné à Wimbledon. C'est Alizé Cornet qui a sorti au troisième tour la numéro 1 mondiale, Swiatek 6-4-6-2. La voici en huitième.
Et merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans un instant, Mathieu Noël après une semaine diplomatique. Il est avocat du président américain Joe Biden. Merci d'être avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin.
Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors maître, en seulement une année d'inscription au barreau, vous avez quand même réussi à vous constituer une clientèle impressionnante. Emmanuel Macron, Elon Musk, Joe Biden. Bon, vous devez rouler sur l'or là.
Que nenni Dimitri, que nenni. Vous savez, contrairement à vous, j'ai des goûts simples. Je dors sur un matelas Ikea que j'ai acheté content. Et je n'ai pas de grosse cylindrée germanique au garage. Je viens ici en Vélib. Moi, vous savez, je ne suis pas du genre à lancer...
La Porsche, elle est à qui la Porsche ?
Au stagiaire de la rédaction pour les impressionner et asseoir mon autorité. Non, c'est vrai, j'ai la chance de compter le président Biden parmi mes clients. Et c'est en son nom ce matin que je demande le retrait immédiat par YouTube de cette vidéo qui tourne en boucle depuis hier, vidéo la plus gênante de l'année. Ou plutôt, bon, soyons précis, deuxième vidéo la plus gênante de l'année après celle où un célèbre journaliste français d'origine ukrainienne tente de faire ami-ami avec son invité en lui disant qu'il connaît bien sa belle-fille, alors que ce n'est plus du tout sa belle-fille et qu'évidemment ça s'est très mal terminé entre elle et le fils de l'invité. Vidéo que je partagerai évidemment avec vous en fin de chronique, on va pas se priver. Mais l'urgence pour mon client Joe Biden, c'est évidemment la suppression de la deuxième vidéo la plus ridicule de l'année, celle dite de Joe, Mr. President, excuse me. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette désormais fameuse vidéo où en marge du G7 en Allemagne, Emmanuel Macron trottine derrière Biden pour lui raconter tout fier qu'il a téléphoné au président des Émirats Arabes Unis avec le même orgueil enfantin qu'Anissa quand elle nous dit que si elle veut, elle peut appeler Nikos Aliagas.
Ouais, chez son 06.
Ouais. Une sorcelée de course-poursuite en slow motion, un spin-off gériatrique de Fast and Furious où Vin Diesel aurait été remplacé par Vin Ethanol et où on voit donc Emmanuel Macron essoufflé, portant sur ses épaules tout le poids du monde, poursuivre Joe Biden, lui-même avançant d'un pas peu assuré en se servant d'un conseiller comme d'un déambulateur d'appoint. Cette séquence pathétique qui a fait s'esclaffer les réseaux sociaux n'est évidemment qu'un deepfake, monsieur Pavlenko. Oh. Regardez la vidéo zoomée, mon client Joe Biden avance comme un octogénaire avec une scoliose de phase 7 et une couche confiance de phase 9. Oh, oh franchement, pensez-vous vraiment que la plus grande démocratie du monde aurait élu à sa tête un grabataire Kakoshim plus vieux que Maître Yoda? J'étais avec mon client il y a quelques minutes, je peux vous assurer qu'il est en pleine forme. Pas vrai, Joe? Mais non, c'est parce qu'il parle pas français ou qu'il entend pas. C'est l'autre gros problème de la vidéo. Les commentateurs ont crié au scandale parce que Macron et Biden évoquaient en public, sous l'œil d'une caméra, des problématiques stratégiques qui ne se discutent normalement qu'en privé. Mais cette vidéo trahit un autre secret diplomatique encore plus important que les réserves de pétrole saoudiennes, la surdité de mon client. Il est sourd comme un pot. Deaf like a pot. Et non, mais on le voit sur les images. Mon client a carrément eu peur. Il a cru que c'était un représentant qui voulait lui vendre des encyclopédies. Mais pourquoi faire tout ce chemin jusqu'en Bavière pour lui vendre des encyclopédies, surtout à l'heure de Wikipédia? Non,
oui.
Mon client s'est repris. Il a reconnu Emmanuel Macron, le président français. Il a essayé de comprendre pourquoi il était si excité. Mais voilà, Emmanuel Macron a beau être bon en anglais, il est bon en anglais pour un français. Or, il suffit d'écouter Anissa nous raconter ses petites combines quand elle doit lancer un disque anglo-saxon pour se souvenir qu'on n'est pas les plus doués en langue.
Eh ben, Lenny Kravitz, it ain't over, là, je sais pas quoi. Yes, I still having fun when I'm looking for, aussi, de U2. Alors, souvent sur France Bleu, je disais, vous avez reconnu
U2, évidemment.
Combine des Français qui parlent mal anglais, donc là Macron baragouine un truc. Bien, Biden comprend rien, il écoute, mais à l'évidence il comprend pas son topo sur le pétrole émirati, encore moins quand notre président se met à évoquer les Saoudis. Les Saoudis, what the fuck is les Saoudis, se demande clairement Joe Biden. Peut-être des petites bouchées farcies à la provençale qui se tremperaient dans l'aioli. Le président français veut absolument me les faire goûter, mais pourquoi ici et maintenant les Saoudis existent-elles en version sucrée comme le pop-corn? Toutes les questions se bousculent dans la tête de mon client dans cette séquence qui trouvera certainement sa place dans les zappings de fin d'année présentés par Cyril Ferraud. Aux côtés, bien sûr, mais oui, de la vidéo qui arrivera indéniablement. Première, si les chaînes nous proposent le top 100 des plus belles boulettes, la vidéo dite « Je connais bien votre belle-fille » ou « Des dangers de vouloir copiner avec l'invité avant l'interview ».
Alors, le soir avec vous, vous, le matin avec vous, le soir je suis avec votre belle-fille. Je dis le soir, je suis en plateau avec votre belle-fille. Ah, votre ex-belle-fille, pardon. Ah, ça fait 15 ans.
Ah oui, 15 ans déjà, quand même, le temps passe vite. Alors, je vous laisse, il y a une autre affaire de droit à l'image à gérer. Visiblement, à l'Assemblée, il y a un député, José González, qui a fait fuiter le teaser du prochain OSS 117. OAS 117, rendez-nous l'Algérie française, c'est un dossier touchy qui devrait me donner pas mal de boulot.
On a hâte d'entendre la ligne de défense. Hein.
C'est fait trouver.
Gérontophobie limite. Hein,
pas du tout, je défends mon client.
Ouais, vous êtes sûr, vous l'enterrez.
Je ne sais pas si je vais toucher mes honoraires.
Non, ça c'est sûr.
Elle est gratuite celle-là, je crois que vous pouvez la lui offrir.
Les cadeaux.
Les plaidoiries de Mathieu Noël du lundi au jeudi à 8h moins le quart et demain, dernière semaine pour retrouver Mathieu, bien sûr.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, dans 4 minutes, le journal de 6h30, on va parler de la fête du cinéma, ça débute aujourd'hui, et puis le plan de résilience des entreprises, inscription dès demain, ce sera juste après un peu de musique, un peu de douceur.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Vous le savez, hein, on communique ensemble sur les réseaux sociaux, sur Instagram également, et bien sûr sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. Vous êtes très nombreux maintenant. Grand merci à vous. 6h30 sur Europe 1, l'information de ce dimanche matin. Arthur Delaborde, bonjour Arthur.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. 4€ la séance dans toutes les salles obscures. C'est le début aujourd'hui de la fête du cinéma.
L'armateur CMA-CGM baisse le prix de ses conteneurs, mais l'effet se fera-t-il sentir sur le pouvoir d'achat? Reportage sur l'île de la Réunion dans ce journal.
Et puis pas de victoire française hier sur le Tour, mais les coureurs tricolores ont animé la deuxième étape au Danemark.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, 6h40, un jour une histoire, le commandant Stanislas Devorsine est l'invité de Philippe Legrand. Et puis à 7h10, la balade du dimanche de Marion Sauveur et Vanessa Zan. Nous irons d'abord dans le sud-ouest, le long du canal des Deux Mers, puis en Normandie à Bayeux. Mais avant cela, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Eh bien, encore une journée estivale qui s'annonce, mais cette fois, contrairement à aujourd'hui, quelques coups de tonnerre sur le relief.
Météo complète dans 7 minutes. Et c'est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du 7e art. La fête du cinéma signe son grand retour à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi.
4 jours de séance au tarif unique de 4€. De quoi faire le plein de films en ce début d'été. L'opération est évidemment bienvenue face à l'inflation et à l'augmentation constante des prix des billets depuis 10 ans. Malgré tout, avec 96 millions d'entrées fin 2021, les salles obscures continuent d'attirer. Louise Douillet a chacun ses astuces pour pouvoir bénéficier d'un tarif réduit toute l'année.
Les yeux levés vers les affiches, Jocelyne réfléchit déjà au prochain film qu'elle ira voir. Son arme anti-prix à elle, sa carte illimitée.
Une carte d'abonné, c'est vrai qu'à 21€, on y va deux fois. Dans le mois, c'est déjà amorti. Mais si ça n'existait pas, eh ben, je n'irais pas au cinéma. À 12€ ou à 15€, plus le parking, ça devient une sortie hors de prix.
Pour Karine, la sortie ciné en famille, c'est un budget de 35€. Heureusement, pour le réduire, elle peut compter sur l'aide de son entreprise.
J'ai pu bénéficier d'un tarif avec mon comité d'entreprise, donc comme ça j'ai pu emmener les enfants aussi au cinéma. Si c'était vraiment le prix plein tarif, on n'y serait pas allé.
Parce que les salles montent en gamme, les prix flambent, même pour les moins de 26 ans. Mais Sarah a trouvé la solution, un autre cinéma, quelques kilomètres plus loin, à 3€ de moins, ce qui lui paie son pop-corn.
On est venu ici en fait parce que ça nous coûtait beaucoup moins cher que si on allait à Châtelet-Léa.
Selon la Fédération Nationale des Cinémas Français, à peine un tiers des billets ont été achetés à tarif plein l'an passé.
Reportage de Louise Douillet pour Europe 1.
Et puis notez qu'à 7h10, je recevrai Nathanaël Karmitz, c'est le grand boss de MK2, salle de cinéma, distributeur, producteur de films également, pour évoquer cette fête du cinéma. Que faire pour soutenir le pouvoir d'achat? Alors que l'inflation accélère, le gouvernement demande aux grandes entreprises de faire un geste.
Et l'un des leaders mondiaux du transport maritime a répondu favorablement à cet appel. La CMA-CGM a annoncé une baisse de ses tarifs de 10% sur ses conteneurs vers la France et les Outre-mer. Alors quel effet pourrait avoir ce coup de pouce? Direction l'île de la Réunion, où deux tiers des biens de consommation sont importés. Charles Huillier, vous êtes notre correspondant sur place. place. Et en réalité, eh bien, les conséquences concrètes de cette baisse du fret restent à démontrer.
Oui, ici, l'inflation sur un an est similaire à celle de métropole, mais sur des produits alimentaires à la base 28% plus cher. C'est surtout la hausse du prix des matières premières qui a tout fait flamber. Ces 10% de baisse sur la part epsilon que représente le fret ne suffiront pas, tant on part de loin, explique Moussa, commerçant indépendant.
Le paquet de pâtes en fret, maximum, on a 10 centimes d'euros, pas plus. Si on fait partir un conteneur de chocolat, on doit être de l'ordre entre 6 et 10 centimes d'euros le kilo. Si un CGM vous dit qu'elle va baisser de 10%, personne ne le ressentira sur son pouvoir d'achat. C'est fini, on baissera pas le prix. On revient jamais en arrière.
Un retour au prix d'avant, une chimère pour les Réunionnais, échaudé par un litre d'huile passé de 2 à 6 euros en 3 mois. Un exemple parmi tant d'autres. Alors les annonces sur une hypothétique baisse dans les rayons des supermarchés ne fonctionnent plus.
La baisse, je n'y crois pas.
Dès qu'il y a une baisse quelque part, les grands distributeurs, ils vont plutôt augmenter leur marge.
Là, les compotes dans le sac, ça coûtait environ 4 euros et là maintenant c'est 5 euros.
Des augmentations trop importantes sur un an pour être atténuées par un geste sur le fret perçu ici comme avant tout symbolique. Saint-Denis de la Réunion, Charles L'Huillier, Radio Freedom pour Europe 1.
6h34, c'est un peu le quoi qu'il en coûte à destination des entreprises exposées aux conséquences de la guerre en Ukraine. Elles pourront bénéficier du plan de résilience dès demain.
Oui, le décret vient de paraître au journal officiel et on connaît désormais les critères d'éligibilité pour les entreprises qui ont besoin de compenser la hausse des prix du gaz et de l'électricité, Aurélien Fleureau.
C'est demain que les entreprises concernées pourront demander leur aide d'urgence gaz et électricité, une mesure très attendue depuis l'annonce de ce plan de résilience le 16 mars dernier par Jean Castex, alors Premier ministre. Selon Bercy, il s'agit de soutenir la compétitivité des entreprises et d'éviter les arrêts des sites qui assure des productions essentielles. La Commission européenne a validé le plan français jeudi dernier et les critères pour en bénéficier sont donc désormais fixés. Les entreprises devront avoir effectué des achats de gaz et d'électricité qui atteignent au moins 3% de leur chiffre d'affaires 2021 et dans le même temps, elles doivent avoir subi un doublement du prix du gaz sur un an. Selon le niveau de perte, l'aide peut aller jusqu'à 50 millions d'euros. Cela concerne en priorité les entreprises de 26 secteurs industriels, dont la sidérurgie, la fabrication de certains métaux ou encore de pâte à papier.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Un mot de politique, le député Éric Coquerel dénonce des rumeurs infondées sur son attitude à l'égard des femmes dans une tribune publiée aujourd'hui dans le journal du dimanche. Le nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée assure n'avoir jamais exercé de violence physique ou psychologique pour obtenir un rapport avec une femme.
Arthur, on va parler du Tour de France à présent. C'est le Néerlandais Fabio Jakobsen qui s'est imposé hier lors de la deuxième étape au Danemark.
Et oui, pas de victoire pour les coureurs tricolores qui ont néanmoins animé la course. C'est le cas de Cyril Barthes et de son équipe BNB Hotel. Il était dans l'échappée avec son coéquipier Pierre Roland. Et si leur initiative n'est pas allée au bout, il se réjouit de la septième place décrochée par son autre coéquipier, Jérémy Lecros, premier français hier.
On est tombé sur un magnet de cornicelle vraiment très très fort, donc j'ai voulu anticiper dès la première bosse de loin pour voir si ça se regardait. Malheureusement il était au-dessus et puis ils ont voulu directement nous extraire dès le début, donc malheureusement derrière il a fallu qu'on se relève, c'était plus la peine de jouer et perdre des forces, le tour est long. Et on a principalement visé donc l'arrivée avec Jérémy Lecros qui vient faire son premier top 10 sur le tour, donc c'est vraiment plaisant et puis on était soudés dans les derniers kilomètres. C'est une bonne dynamique et c'est une bonne journée quand même pour le BNB Hotel.
Le coureur Cyril Barthes au micro de Martin Lange. Et sachez que la troisième étape, la dernière au Danemark, est promise aux sprinteurs aujourd'hui. Et c'est le Belge Wout van Aert qui portera le maillot jaune. Enfin, le football. Et à peine 24 heures après l'annonce du départ de son entraîneur, Jorge Sampaoli, l'OM a signé un accord de principe avec Igor Tudor. Le Croate était jusqu'ici à la tête du club de Vérone en Italie. Il devrait rencontrer les joueurs marseillais dès demain.
Exactement. C'était le journal d'Arthur Delaborde. Merci, à tout à l'heure, Arthur.
À tout à l'heure.
Alors, la météo avec vous, Valérie Darmon, et les températures qui s'envolent où précisément ?
Ah bah dans le sud-est, hein.
Bien sûr.
37 à Manosque, à Gap, à Nîmes, à Avignon, à Lombre et sous-abri, 36 à Valence, 35 à Grenoble, 34 à Embrun, 33 à Marseille, 32 à Toulouse, 31 à Saint-Étienne, 30 degrés à Nice, 29 à Mont-de-Marsan, 26 en région parisienne, 24 à Charleville-Mézières, 23 à Caen, 22 à La Rochelle. Et pour les minimales, entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, hormis en Alsace et en Lorraine, où il fait plus doux. Et puis sur la moitié sud, 13 à 18 degrés et jusqu'à 20 sur le pourtour méditerranéen. Et du côté du ciel, ben, il est toujours très très beau, hein. Il fait beau partout. partout. Mmh. C'est un petit peu plus variable dans le nord-ouest avec quelques averses qui se déclenchent ce matin, voilà, qui va faire du bien au jardin. Et partout ailleurs, le soleil qui est généreux, passagèrement voilé le long de la Manche, avant l'arrivée aussi des orages des Pyrénées au Massif central et sur les Alpes dans l'après-midi, parce que qui dit chaleur dit souvent orage.
Et bien sûr. Merci Valérie. À tout à l'heure. Allez, à 7h10, on partira en balade avec Vanessa et Marion, bien sûr, en vélo d'abord sur le canal des Deux Mers. Et puis on va déguster du saucisson dans l'Orne, mais tout de suite, Philippe Legrand.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Tous les dimanches matin, un invité des archives, on regarde dans le rétro une date, une histoire. Ce matin, les confidences du commandant Stanislas de Vorsine. Il est le commandant du seul navire écologique qui met le cap sur des zones encore non explorées. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Direction l'Antarctique. Bonjour commandant Stanislas de Vorsine.
Bonjour Philippe.
Vous êtes capitaine de corvette, commandant et selon l'expression consacrée, le pacha entre autres de ce navire ponant baptisé commandant Charcot, le seul aujourd'hui capable de braver le monde des glaces en réduisant l'empreinte carbone. Stanislas de Vorsine, la mer est votre royaume, le paradis blanc, votre espace de liberté où vous naviguez par tous les temps. Les récits des grands navigateurs ont donné des ailes à vos rêves. Avec Olivier de Kersauzon, vous embarquez pour des défis à la voile, des tempêtes au 40e rugissant, des baleines aux ours polaires. Vous êtes l'un des ambassadeurs de la nature à préserver en l'observant au plus près et toujours avec émerveillement. Ce matin, commandant Stanislas de Vorsine, vous avez choisi de revenir sur l'inauguration de la base française en Antarctique en hommage à Jules Dumont-d'Urville. Des souvenirs de Paul-Émile Victor au micro d'Europe 1.
Quand on me dit comment êtes-vous venu à partir en expédition polaire, à organiser les expéditions polaires dès 1934, etc., je réponds toujours ce qui est la vérité, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'avais déjà envie de le faire.
Il avait déjà envie de le faire, n'est-ce pas, commandant Stanislas de Vorsine? J'imagine que vous aussi, très tôt, vous avez fait le choix, au fond, de partir, de rêver à des voyages futurs. Vous avez choisi ce matin de revenir sur un certain 20 janvier, allez, très loin dans le temps, 1840, le début de l'aventure d'un certain Jules Dumont-d'Urville, là où se trouve la base scientifique dans ce monde des glaces. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, c'est une date très importante dans l'histoire polaire française. C'est la première fois que un Français apercevait le continent antarctique. Ce Jules Dumont-d'Urville a entrepris un très long voyage pour rejoindre l'Antarctique, donc au sud de l'Australie, qu'il a baptisé la Terre Adélie en hommage à sa femme qui s'appelait Adèle. Donc c'était en 1840, c'est très lointain, mais c'était le début d'une longue histoire qui perdure aujourd'hui. Qui a été prolongé par le commandant Jean-Baptiste Charcot en 1903-1905 en Antarctique. Et puis ensuite, Paul-Émile Victor qui a promu et permis l'ouverture de la station Dumont-d'Urville en Terre Adélie, au sud de la donc de l'Australie. Donc c'était en 1956 et depuis, cette station héberge des scientifiques à temps plein, sans aucune interruption depuis cette date. Elle est très active et elle est ravitaillée tous les ans par un fier navire, en tout cas qui s'appelait l'Astrolabe et qui aujourd'hui a été remplacé par un navire armé par la Marine nationale qui s'appelle l'Astrolabe 2 qui est en service depuis 2017. Et moi j'ai commandé le précédent navire, l'Astrolabe tout court, pendant une dizaine d'années. C'était des formidables aventures, une aventure maritime, polaire, et humaine aussi, parce que dans ces contrées-là, le lien humain est évidemment prépondérant et très important.
Alors, il faut, commandant, revenir sur cet endroit et situé justement pour les auditeurs, cet endroit où se trouve la base du Mont d'Urville. On est pas loin de ce qu'on appelle les îles des Pétrels, c'est cela, en terre d'Adélie.
Alors, tout à fait. C'est là que Jules du Mont d'Urville a posé le pied. Sur le continent antarctique, donc sur un tout petit archipel, l'archipel avec l'île des Pétrels, voilà, qui est à une centaine de mètres seulement du continent, en 1840. Et donc la station a été érigée sur cette île en 1956.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait ? On parle de travaux scientifiques, d'observations régulières. Vous y êtes allé, justement, vous le disiez, lorsque vous étiez à bord de l'Astrolabe. Qu'est-ce que vous y avez vu ?
On a une mission qui est très, très importante. On est dans une zone très hostile, très difficile d'accès. Beaucoup de glace de mer, beaucoup de glace dérivante. Et les navires, en tout cas l'Astrolabe, ravitaillent cette station du Mont d'Urville en hommes et en matériel pour mener à bien des programmes scientifiques. C'est une station uniquement scientifique et donc sur laquelle différents types de recherches sont menées, que ce soit de la glaciologie, de l'océanographie, de l'ornithologie, les études météo, il y a un lidar, il y a tout un tas de recherches qui sont menées. Et c'est aussi une base de départ pour rejoindre la station franco-italienne qui s'appelle Concordia d'Omsé, qui est à environ 1000 km à l'intérieur du continent.
Et qui a une autre fonction. En revenant sur cette base, commandant la base du Mont d'Urville, des Français y sont scientifiques, engagés, vous êtes allé avec eux. Ils sont aussi très impliqués sur les questions climatiques.
Ah, évidemment, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on se rend compte que les zones polaires sont des révélateurs en fait du changement climatique et donc il y a des études très importantes qui y sont menées. On connaît assez mal encore ces zones-là, donc les recherches sont très importantes, ainsi que l'océan Austral. Tout cet énorme océan qui entoure l'Antarctique est un océan assez mal connu finalement, et donc il y a beaucoup d'expéditions scientifiques qui sont menées. En ce moment, depuis maintenant de plusieurs années, et c'est en tout cas très intéressant.
Vous parliez, commandant Stanislas de Vorzine, de la navigation. On voit dans ce que vous avez dit des descriptions et qui est très claires. On est cerné par le monde des glaces, donc une navigation difficile. Est-ce qu'il y a aussi une faune j'imagine que ces ours dont on entend parler, et puis les autres animaux, effectivement, de ce coin-là du monde sont très présents. Ils sont aussi observés?
Ah oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'observations, à savoir que la vie est fragile, très fragile dans ces zones-là, donc les abris sont peu nombreux, et sur l'archipel sur laquelle la station du Mont-de-Ville est installée, il y a de nombreuses colonies d'oiseaux, les fameux manchots empereurs. Vous savez, ce documentaire qui a été tourné par Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur, est tourné au pied de la station du Mont-de-Ville. Donc il y a une grande concentration de vie pendant l'été austral, qui est à l'inverse de notre hiver boréal. Et donc, tout le contingent scientifique étudie ces animaux, la vie, comment la vie est maintenue dans ces zones si hostiles à la vie.
Commandant Stanislas de Vorzine, cela fait partie, on va le dire comme ça aussi, de vos qualités de marin. Aujourd'hui, vous êtes l'un des commandants, du commandant Charcot, ce fleuron, ce joyau français qui fait partie justement des navires Ponant. Alors, racontez-nous au fond comment est ce commandant Charcot.
Oui, tout à fait, ce navire avec cette capacité qu'il a, ce confort, cette réussite, c'est une vraie réussite technique et maritime. Ce navire, on peut emmener de nos passagers rejoindre des contrées reculées qui étaient auparavant inatteignables. Et notamment, on peut aller au pôle Nord. Et l'année prochaine, en début 2023, on va pouvoir rejoindre la station du Mont d'Urville. Donc, je suis très heureux d'y retourner après mon épisode avec la Marine nationale. Donc c'est une chance inouïe de pouvoir emmener nos passagers ainsi et de les faire également participer finalement aussi à ces opérations scientifiques, parce que le navire est utile grâce aux scientifiques embarqués.
Merci beaucoup, commandant Stanislas de Vorzine, d'être venu ce matin sur Europe 1. Avec vous, on a retrouvé cette base française, la base du Mont d'Urville, inaugurée le 20 janvier 1840. Et nous allons suivre vos navigations à bord du commandant Charcot de la flotte et des navires Ponant. Et finalement, la musique est très présente aussi hein, dans votre vie. Il y a la musique de la beauté de la nature, on l'a compris ce matin à travers ce que vous nous avez dit. Et puis, vous avez choisi de partager avec les auditeurs, pour se dire au revoir, ce concerto pour flûte et harpe en ut majeur, signé Mozart. Merci et à bientôt.
Au revoir.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
7h10, l'essentiel de l'info de ce dimanche, Arthur Delaborde.
Retour à la normale aujourd'hui à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Un vol sur 5 avait dû être annulé hier en raison d'une grève pour la revalorisation des salaires. La mobilisation est suspendue pour l'instant, mais devrait reprendre la semaine prochaine. Qui pour remplacer les ministres battus aux législatives? Damien Abad, visé par une plainte pour viol, va-t-il quitter le gouvernement? Des questions au cœur des dernières discussions à l'Élysée et à Matignon ce dimanche. Le remaniement est attendu très probablement demain. La première ministre Elisabeth Borne doit aussi choisir des personnalités à même d'élargir sa majorité désormais relative. Elle a mis fin à une série de 37 victoires d'affilée d'Igaz Swiatek, exploit de la française Alizé Cornet hier à Wimbledon. Elle a battu en 2-7 la polonaise numéro 1 mondiale de tennis. Une autre française, Harmonie Tan, s'est elle aussi qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi londonien. Et puis, incroyable réaction de Fabio Jakobsen après sa victoire hier lors de la deuxième étape du Tour de France. Le Néerlandais s'est imposé au sprint 2 ans après une très grave chute sur le Tour de Pologne. Le Belge Wout van Aert s'est lui emparé du maillot jaune.
Merci Arthur. À 7h, le prochain journal. Remaniement demain et casse-tête pour l'exécutif, nous dira Lou Dragnel. Et puis retour sur cette deuxième étape du Tour de France avec l'exploit de Fabio Jakobsen. C'est votre matinale week-end sur Europe 1. Dans un instant, la balade du dimanche à vélo et en mangeant du saucisson. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors Vanessa, on part d'abord avec vous en balade sur le canal des deux mers et on enfourche pour cela nos vélos.
Oui, mais pour faire du slow tourisme. Oui. Voilà. Ouais, hein, parce qu'on va partir en France, un petit côté de la France, en itinérance, en douceur, mais quand même sur 700 km. 700 km de canal qui relie donc l'Atlantique à la Méditerranée, avec tout du long des structures labellisées accueil vélo. Et grâce à ce canal des deux mers, on va quand même traverser deux régions, 7 départements. Allez, on révise notre géographie,
alors,
ça veut dire...
Charente-Maritime, ouais. Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne,
Il est 10 sur 10.
C'est tellement facile quand c'est décrédit.
Justement, et en rouge en plus. L'Hérault, justement, est né donc l'histoire du canal des deux mers avec la création du canal du Midi. Donc ça, c'était il y a 356 ans. C'est le plus ancien canal encore en fonctionnement en Europe. Et c'est à un Biterrois que l'on doit ce chef-d'œuvre, Pierre-Paul Riquet. Il a su trouver l'idée de génie qu'aucun n'avait trouvé auparavant pour aménager une grande voie d'eau donc qui reliait l'océan à la Méditerranée. Le but, c'était de favoriser le commerce du blé. Il a trouvé ça grâce à un fontainier de la Montagne Noire, c'est-à-dire qu'il a trouvé le point du partage des eaux. Les eaux partaient dans un sens et dans l'autre. Donc, Eureka, c'est comme ça que tout a pu commencer. Bon, il y a eu quand même aussi le feu vert de Louis XIV, évidemment.
Ça aide un peu.
Voilà, qui a financé.
Et il a été construit en combien de temps?
14 ans. Ah ouais. 14 ans de travaux. Un chantier colossal. 12 000 ouvriers pour aménager 240 km, 64 écluses, 300 ouvrages d'art, comme ces 9 écluses de Béziers à Fonserane. En fait, c'est un escalier d'eau sur 21 mètres 50. L'eau descend, en fait, d'une écluse à l'autre. Elles ont été classées monuments historiques. Alors, le canal du Midi, lui, est inscrit au patrimoine mondial de UNESCO. Et donc, il relie la Garonne à la Méditerranée, de Toulouse à Sète. Et c'est aussi à Pierre-Paul Riquet que l'on doit le port de Sète, les amis.
Si, je dis bien si. Ouais, j'ai envie de faire les 700 km en partant de Sète pour rejoindre l'Atlantique. Ça prend combien de temps à vélo?
Alors, les 700 km, environ
pour
10
un
jours.
Vieux, hein, pour un vieux.
Ouais, donc 20 jours. Hein, voilà.
Mais c'est pas mal, 10 jours en vrai.
Sans compter les spots, les visites que vous pouvez évidemment faire les 6 tronçons, les 30 étapes. Ouais. Alors, comme vous le demandez, parce que vous êtes prêts à faire les 700 km, direction Royan, au bout du canal des deux mers. Là, vous allez cheminer en plus sur les balcons de l'estuaire de la Gironde pour rejoindre Royan, qui est une station balnéaire, en fait, un peu à double visage.
Mais pourquoi à double visage?
Alors, parce qu'en fait, il y a une partie qui est restée figée au temps de la Belle Époque, avec ces villas balnéaires qui se dressent encore face à l'océan. Et puis l'autre qui est littéralement le fleuron du modernisme des années 50. 80% de la ville a été reconstruite après 45, vous en doutez. Et ce modernisme est inspiré de l'architecture brésilienne. Et donc, je vous recommande justement de suivre les visites guidées architecturales qui sont passionnantes. Charlotte de Charette, qui est responsable du service patrimoine de la ville de Royan, vous donne un avant-goût de ces pépites moderniste.
Allez.
Il y a évidemment le Palais des Congrès, qui est un bâtiment qui est vraiment très, très marqué par l'architecture d'Oscar Niemeyer, qui se trouve sur la façade de Foncillon, face à la mer, et qui, avec ses couleurs qu'il est en train de retrouver, donc le bleu, le jaune, le orange, montre bien justement tout cet aspect ludique, finalement, de cette architecture des années 50. Je pense aussi aux villas. Il y a un certain nombre de villas des années 50 qui sont très étonnantes, qu'on croirait sorties parfois d'un film de Jacques Tati. Donc, il y a la Villa Grippin, par exemple, qui se trouve pas très loin du Palais des Congrès, d'ailleurs, ou aussi la superbe Villa Boomerang, qui est dans le quartier du Parc, où là, il y a une piscine en dessous. Enfin, voilà, il y a vraiment cette architecture qui, finalement, pourrait être au Brésil, mais aussi en Californie.
Bon, et c'est pour ça qu'on l'appelle la ville la plus 50 de France.
Une adresse
allez,
pour dormir.
Allez, l'Austréal, un bed and oysters. Un bed and breakfast avec des huîtres.
D'accord.
Voilà, c'est entre le port austréicole de la Grève et le centre-ville de la Tremblade, et c'est une maison typiquement charentaise.
Et si vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez le guide du Routard qui a sorti un guide sur le canal des deux mers à vélo. Merci Vanessa. Marion, on va en Normandie, dans l'Orne ?
Oui, je vous emmène chez le champion de France du saucisson classique, direction Saint-Ouen de Sèche-Rouvre, chez Jérôme Le Poivre de la ferme Les Cochons sont dans le pré.
Ouais.
C'est lui qui vient de remporter donc le premier championnat du saucisson classique organisé par l'Amicale du Sauciflard. Ça ne s'invente pas, n'est-ce pas ? Deux autres saucissons ont été récompensés, celui de la ferme du Montet dans l'Aveyron.
Ouais, c'est bon.
Ça, c'est une saucisse sèche bœuf-oignon. Et il a reçu donc le meilleur prix du saucisson de création, et celui de la maison Montalet dans le Tarn à la truffe, qui a remporté le prix du public et que vous êtes en train de déguster.
Ah oui,
on sent la truffe, hein, c'est bon le saucisson.
On sent bien.
On est à la bonne heure pour commencer à déguster.
Avec le café au lait, c'est fantastique.
Heure, on est bien.
Mais moi, je vous ramène donc en Normandie, et c'est pas un hasard si Jérôme Le Poivre a remporté ce prix de la charcuterie préférée des Français. Il élève des cochons, mais pas n'importe lesquels, des porcs de Bayeux, une race très rare, puisqu'il n'existe en France que 189 truies. Jérôme Le Poivre en possède que 8. Ce sont des cochons rustiques blancs aux taches noires, aux oreilles un petit peu tombantes. Ils ne vivent qu'en extérieur. Les porcs de Bayeux gambadent dans les vallons du Perche où ils grignotent l'herbe. Et Jérôme Le Poivre les nourrit aussi avec des céréales qu'il fait pousser comme du blé ou de l'orge.
Mais à quel moment ils sont prêts pour être abattus alors ?
Alors il faut qu'ils atteignent un bon poids. Donc c'est entre 130 et 140 kilos. En fonction du cochon, c'est entre 14 et 20 mois. Et ils sont ensuite transformés notamment en saucisson. Jérôme Le Poivre.
On fait abattre 2 à 3 cochons par mois qui passent tout entier en saucisson. On retire uniquement les 2 filets mignons. Ça veut dire que les échines, les rôtis, les jambons, les pièces maîtresses passent entièrement en saucisson. On ne met pas uniquement des bas morceaux. Et le taux de gras, le charcutier qui me fait ça chez Chaillou, il s'appelle Eric Lagoutte. Il a vraiment la bonne main pour faire tout ce qui est dosage, pour faire tout ce qui est assaisonnement, l'affinage. Le prix vient en partie à lui aussi, parce que moi je suis éleveur, je suis agriculteur. Et lui, il sublime nos animaux dès qu'il les a dans ses mains. C'est un super mec.
Ouais, bravo à tous les deux. La viande des porcs de Bayeux est bien persillée, rosée, presque rouge. Et donc, on a un saucisson de cette couleur. Et vous retrouvez donc les produits de Jérôme Le Poivre dans les épiceries fines de la région et sur les marchés de Mortagne.
Alors, ça se cuisine comment, ce saucisson sec ?
Alors, ça se cuisine pas vraiment.
Bah oui.
C'est bon à l'apéritif ou avec une petite tranche de pain avec un peu de beurre salé. On n'est pas loin de la Bretagne. Mais pour changer, moi, je vous propose de déposer quelques tranches dans votre assiette et de le consommer comme une viande à part entière et de l'accompagner, pourquoi pas, d'une salade de pommes de terre. Saucisson, pommes de terre, ça fonctionne toujours très bien.
Très bien.
Alors pour cette salade, on va commencer par faire cuire à l'anglaise les pommes de terre dans un grand volume d'eau froide.
À l'anglaise, ça s'appelle.
Oui, c'est ça. Grand volume d'eau froide avec du sel, on porte à ébullition. Et quand les pommes de terre sont cuites, on les épluche, on les coupe en rondelles, on leur ajoute des petits oignons émincés, de la ciboulette, on met le saladier au frais. Ensuite, vinaigrette, moutarde, vinaigre, huile, sel, poivre, petite astuce. On fouette avec la fourchette pour qu'elle soit bien émulsionnée à la lyonnaise. On mélange cette sauce aux pommes de terre. Il n'y a plus qu'à servir, on est prêt.
Allez, merci, on retrouve la recette sur europe1.fr. C'était chouette de passer cette année avec vous. Merci, merci.
On était ravis, oui.
Et on se retrouve bien sûr dès le 11 juillet. Toutes les deux, vous serez là à mes côtés, 6h43, 8h48, pour se faire quelques bonnes balades en France avec vous. On sera ensemble et ça, c'est chouette.
Avec grand plaisir.
Grand plaisir.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Et bon réveil à tous. Merci de nous rejoindre. Europe 1, il est 7h.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Dimanche 3 juillet, toute l'information avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le casse-tête du remaniement, parité, compromis, ouverture. Qui va entrer et qui va sortir du gouvernement d'Elisabeth Borne? Nos indiscrétions dans un instant.
Des départs en vacances difficiles pour les Français qui prennent l'avion et ça ne devrait pas se calmer. Le mouvement social à Roissy est reconduit pour le week-end prochain.
Et puis à la fin du journal, on vous raconte la belle histoire de Fabio Jakobsen, vainqueur hier de l'étape du Tour, 2 ans après un très très grave accident.
Juste après ce journal, je recevrai Nathanaël Karmitz des cinémas MK2 pour le coup d'envoi de la fête du cinéma aujourd'hui. Comment réconcilier les Français avec les salles obscures? Et puis si vous êtes fan d'Italo Disco, comme les Naïcs, ne bougez pas. On en parle vers 7h23 avec Mathieu Alterman. Mais tout de suite, la tendance météo, Valérie Darmon.
Beau, avec une tendance orageuse entre Massif central et nord de la vallée de la Garonne ainsi que sur les Pyrénées. Donc beau partout, à signaler juste quelques petits nuages le long de la Manche.
Et la météo version longue, c'est bien sûr dans 7 minutes. Double conseil des ministres, déclaration de politique générale, la formation du nouveau gouvernement est imminente.
Après 15 jours de flottement post-législative, Emmanuel Macron souhaite que la cadence s'accélère. Le chef de l'État veut reprendre la main. Il travaille donc avec Elisabeth Borne au remaniement qui pourrait avoir lieu dès demain matin. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Quelles sont les pistes du gouvernement pour ce remaniement ?
Eh bien, tout d'abord, il s'agit sans doute du remaniement le plus périlleux depuis plusieurs décennies. 3 ministres battus sont sur le départ. Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, Brigitte Bourguignon à la Santé, ainsi que Justine Bénin, secrétaire d'État à la mer. Ensuite se pose l'épineuse question du maintien de Damien Abad, accusé d'agression sexuelle, même s'il est à ce jour présumé innocent. Ce qui gêne l'exécutif, c'est l'image. Car Emmanuel Macron s'est fortement engagé dans la lutte contre les violences sexuelles, même si, encore une fois, le ministre des Solidarités n'est pour le moment coupable de rien. Ensuite, le gouvernement devait de toute façon être étoffé après les législatives, notamment pour tenter de donner une majorité au Premier ministre Elisabeth Borne. Plusieurs noms sont évoqués, Jean Rottner, le président LR de la région Grand Est, ou encore l'écologiste Yannick Jadot. Mais la difficulté pour l'exécutif demeure, ces personnalités arriveront-elles avec des députés en mesure de soutenir le gouvernement? Car le problème n'a pas évolué, Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
L'Assemblée nationale qui s'est dotée d'un président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui sort du silence ce matin après des accusations de violences faites aux femmes.
Oui, le député insoumis a choisi le JDD pour livrer sa version. Il évoque une rumeur alimentée par les milliers de réactions sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Amélie Le Breton préside l'agence en stratégie de communication Cariolink. Elle met en garde contre la puissance justement des réseaux.
Aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux fait que ça amplifie une affaire. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, la rumeur ou vous avez une affaire qui va sortir avec un terreau judiciaire et elle va être amplifiée parce que les réseaux sociaux servent aussi de ça, donnent un écho à ça, parce que c'est partagé, c'est parfois déformé. La rumeur, c'est un phénomène qui s'amplifie et qui devient très compliqué à maîtriser parce qu'elle est démultipliée. Et donc, vous avez une force extrêmement violente qui peut s'abattre sur quelqu'un, qu'il soit coupable ou non. Si vous avez 1000, 10 000, 100 000 partages, ça devient un sujet d'actualité. Et c'est un vrai problème.
Amélie Le Breton, présidente de l'agence en stratégie de communication Cariolink.
Alors, vous avez peut-être raté votre premier jour de vacances à cause des grèves à l'aéroport de Roissy hier. Eh bien, Lénaïc, la zone de turbulence va se poursuivre.
1 vol sur 5 annulé hier à cause de ce mouvement social et des milliers de vacanciers sur le carreau. Une vraie galère pour les voyageurs qui ne risquent pas de s'arrêter puisqu'un préavis de grève a été déposé par la CGT pour le week-end prochain, autrement dit le premier week-end des vacances scolaires. Les syndicats sont formels, ils continueront jusqu'à ce qu'ils soient entendus par la direction. Écoutez Fabrice Marceau, secrétaire général de la CGT Transport.
Aucune entreprise n'a fait l'effort de recevoir les salariés, quelle que soit l'entreprise, que ce soit des entreprises de sûreté, de tri-bagage, de propreté, de commerce ou d'hôtellerie. On a dans la perspective de redéposer un préavis interprofessionnel pour le week-end du 14 juillet, donc pour l'ensemble des salariés d'Aéroports de Paris. C'est un week-end stratégique, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir interpellé les instances gouvernementales et patronales sur les problèmes d'effectuation qu'on vit aujourd'hui. C'est le patronat qui l'a créé, le gouvernement. L'objectif, ce n'est pas de faire grève pour faire grève. Si on pose des préavis, la philosophie et l'esprit de la loi, c'est justement de trouver un compromis avant de faire grève. Mais malheureusement, le patronat ne respecte pas ses obligations. Et donc la responsabilité, il la porte pleine et entière.
Fabrice Marceau, secrétaire général de la CGT Transport, il répondait à Nina Droff.
7h04, on le constate bien sûr tous en ce moment, cette baisse du pouvoir d'achat. Alors cette idée, c'est une bonne manière de faire des économies, réparer ces objets au lieu de les racheter.
Oui, c'est bon pour le portefeuille, c'est bon également pour la planète. Et si, comme beaucoup, vous n'êtes pas trop bricolo, des associations retapent pour vous vos téléphones, vos lampes, votre grille-pain. Noah Moussa nous fait découvrir ce matin une association et ses bénévoles, la Petite Roquette.
Sur la table, une vieille télévision et un four à micro-ondes attendent d'être réparés. C'est le travail de Lionel, 68 ans, qui prend le temps de montrer à la propriétaire d'un fer à repasser comment le remettre en état.
J'essaye tout simplement en actionnant à la main, faire tourner la pignolerie.
Cet ancien chercheur au CNRS anime l'atelier de réparation d'électroménager une fois par semaine, un vrai succès.
Notre atelier est utilisé par une douzaine de personnes chaque semaine. Quelquefois, il y a des personnes qu'on voit pour la deuxième ou la troisième fois, mais en général, ce sont toujours des nouvelles personnes.
Une réussite également due à l'explosion des prix de certains appareils électroménagers. C'est ce qui a poussé Myriam à franchir le seuil de l'atelier pour réparer son épilateur électrique.
Il a plus de 2 ans. Je savais que j'aurais été obligée de payer une réparation. Et ça m'aurait coûté entre 50 et 80 euros. J'ai 90% de chances que mon appareil soit réparé et que ça ne me coûte rien. Je suis à la retraite, j'arrive à peine à vivre avec ça. Donc me racheter un appareil, ça bouleverse mon budget.
Dans cet atelier, bénévoles et usagers mettent la main à la pâte et le cœur à l'ouvrage. Une opportunité de tisser des liens et de faire un geste pour la planète.
Noah Moussa du service économie d'Europe 1 pour faire des économies. Justement, vous pouvez également profiter de la fête du cinéma. 4 euros la séance à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi. Et votre invité Thierry, justement, pour en parler après ce journal, Nathanaël Carmit, le patron des MK2.
Exactement. Le sport à présent avec une belle histoire. Une histoire comme seul le sport finalement peut nous en offrir. La victoire hier du Néerlandais Jacobsen sur le Tour de France, qui a une saveur particulière.
Hein. Il y a 2 ans à peine, on le pensait complètement perdu pour le vélo. Après une terrible chute, les images avaient fait le tour du monde. Martin Lange, sa victoire hier au sprint a mis du baume au cœur à tout le peloton.
Oui, Fabio Jakobsen, c'est l'histoire d'un miraculé. En août 2020, sur le Tour de Pologne, il est victime d'une terrible chute. Bousculé par un adversaire, il heurte les barrières de sécurité à plus de 70 km/h. Transporté à l'hôpital, il est rapidement placé sous coma artificiel. Son pronostic vital est engagé. Alors s'il se réveille 48 heures plus tard, personne ne l'imagine capable de remonter sur un vélo. Pourtant, moins d'un an plus tard, il est déjà de retour. Et le plus impressionnant, c'est qu'il gagne. Mais Jakobsen n'oublie pas toutes les galères qu'il a traversées et surtout ceux qui l'ont accompagné.
Ça a été un très long processus. Beaucoup de personnes m'ont aidé. Ce succès, c'est pour les remercier, leur montrer qu'ils n'ont pas fait tout ça pour rien.
Parmi eux, il y a Florian Sénéchal, son coéquipier. C'est lui qui l'avait secouru en Pologne et lui avait prodigué les premiers soins. Hier, il ne pouvait cacher sa joie.
C'est mérité, il travaille dur et j'ai toujours su que c'était l'un des meilleurs sprinteurs au monde et maintenant il le prouve. Il est revenu de loin et je suis content pour lui, vraiment, vraiment content.
Fabio Jakobsen, hein, qui pourrait remettre ça aujourd'hui. On attend une nouvelle arrivée au sprint à Sandefjord et après sa démonstration d'hier, le miraculé fait figure de grand favori.
Et la grande boucle qui a un nouveau maillot jaune, le Belge Wout van Aert qui succède à un autre Belge, Yves Lampaert. Tout ce qu'il faut savoir sur le Tour de France, c'est à 7h30 justement avec Martin Lange.
Exactement, c'était le journal de Lénaïque Moni. À tout à l'heure,
Lénaïque. À tout à l'heure.
Valérie Darmon, la météo aujourd'hui, c'est vite résumé, un chaud beau.
Effectivement, près de la Méditerranée, très chaud. Sous un soleil de plomb, vous atteindrez les 30 degrés à 10h ce matin. Et cet après-midi, la chaleur qui devient caniculaire avec 35 à 38, des pointes vers 40 entre la basse vallée du Rhône, le Languedoc et la Provence. De la Bretagne et Hauts-de-France jusqu'au nord de la région parisienne et aux Ardennes, votre ciel est hésitant entre éclaircies et nuages. Frais ce matin avec 7 à 10 degrés, 18 à 24 cet après-midi, des côtes à l'intérieur des terres. Des Pays de la Loire et de la Vendée au Grand Est, en passant par le sud du bassin parisien et le centre Val-de-Loire, jusqu'en Bourgogne, jusqu'au Jura. Très belle journée d'été avec 25 à 29 cet après-midi, des conditions idéales. Des Pyrénées au bassin aquitain, l'ambiance est lourde ce matin et cet après-midi, le temps tourne à l'orage avec quelques averses. Des orages plus fort en montagne, il fera 30 dans l'après-midi jusqu'à 35 en midi toulousain. Et enfin, du massif central aux Alpes, c'est là que les orages seront localement les plus violents. Ce soir, il fera cette fois entre 28 et 32
pour
les maximales.
Merci beaucoup Valérie, on se donne bien sûr rendez-vous à 7h30. Restez avec nous, c'est la fête du cinéma qui débute aujourd'hui, des places à 4 euros. Et une industrie pas vraiment à la fête, hein, des entrées en berne, la concurrence des plateformes et le Covid qui a fait bien sûr du mal. On va en parler avec le patron des salles MK2, également producteur et distributeur, Nathanaël Carmitz, dans un instant sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
L'interview de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Nathanaël Karmitz.
Bonjour.
Président du directoire de MK2. C'est combien de salles d'abord de cinéma en France, MK2 ?
Alors c'est à Paris exclusivement et c'est 11 cinémas et 67 écrans.
Et vous êtes, parce que le logo on le voit bien évidemment quand on va au cinéma, vous êtes aussi producteur de films, distributeur également. Hein ?
Oui, tout à fait.
Alors c'est la fête du cinéma jusqu'à mercredi, 4€ la séance. Ça va faire du bien au cinéma français, au cinéma en général.
Oui, en tout cas c'est un événement et c'est un peu comme le festival de Cannes, c'est que c'est un moment de retrouvailles. Il y a une grande offre de films, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mmh. Et donc cette idée de la fête du cinéma, voilà, on sent qu'aujourd'hui on aime tous les événements et donc c'est une manière de se retrouver tous ensemble autour d'un moment fédérateur. Donc oui, c'est important.
Et est-ce qu'il y a besoin de réconcilier les Français avec le cinéma, avec les salles de cinéma ?
Alors là-dessus, la situation est paradoxale, c'est que à la fois les chiffres, quand on les regarde comme ça un peu brutalement, mmh. Sont plutôt en baisse, mais en fait il y a beaucoup de nuances à apporter à tout ça.
Ouais.
Déjà, il y a des très bonnes semaines, les jeunes sont revenus en masse au cinéma alors qu'avant la pandémie, on nous expliquait que les jeunes ne voulaient plus y aller. Il y a des records de box-office mondiaux qui sont battus très régulièrement. Le dernier en date, c'est Top Gun, qui a franchi le milliard de dollars et qui a ameuté des spectateurs partout dans le monde.
Mmh.
Donc, il y a des situations très contrastées. Mais ce qui est sûr, c'est que les habitudes ont besoin de se reprendre de manière plus régulière. Mais c'est aussi une question d'offre, de films. Et là, c'est vrai que c'est une semaine où, même moi, à titre personnel, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y en a pour la famille, des comédies, des films français, des blockbusters. Et d'un coup, c'est cette diversité de l'affiche qui donne envie d'y aller.
Bien
et
sûr.
C'est ça qui commence à revenir.
On va en reparler, bien sûr, dans un instant. Et je vous demanderai votre avis sur les films à voir pendant cette fête du cinéma. Juste une chose, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, bien sûr, en ce moment. La séance en temps normal, c'est 13€ en moyenne, on va dire. Des parents, deux enfants, ça fait une sortie à 52€. C'est devenu finalement un luxe d'aller au cinéma aujourd'hui.
Alors, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça les prix. Le prix moyen d'une place de cinéma en France, c'est en dessous de 7€. Chez MK2, par exemple, les moins de 26 ans, c'est 4,90€.
Dans les grandes villes, vraiment, c'est ça, dans les grandes villes ?
Ouais, tous les jours de la semaine, dans toutes les salles, 4,90€. Donc vous évoquez un tarif plein dans certaines chaînes de nos concurrents.
Ouais.
aujourd'hui, il y a mille manières d'avoir des tarifs moins chers. Vous pouvez y aller le matin, vous pouvez acheter des cartes d'abonnement, etc. Le prix moyen en France, c'est moins de 7€. Les gens qui payent ce tarif plein, c'est moins d'un spectateur sur 5. Donc oui, mais et après c'est un peu pareil, c'est comme les jeunes ne vont pas au cinéma.
Ouais.
L'idée que le cinéma est trop cher, c'est quelque chose que moi personnellement on me dit depuis quasiment que je suis né. Il y a une perception du cinéma trop cher, mais ça reste le loisir le moins cher, quelle que soit la manière dont on le prend. Dans une grande ville, c'est moins cher que la place de parking.
Mais
donc le cinéma est le loisir et la sortie la moins chère.
On est de la même génération. Pourquoi les prix ont flambé ? On payait pas ce prix-là lorsqu'on allait au cinéma adolescent. Pourquoi c'est si cher aujourd'hui ? On paye les immenses salles, on paye les complexes finalement ?
Mais sauf qu'encore une fois, si vous regardez l'évolution des prix sur les 20 dernières années, le prix de la place de cinéma a évolué moins que l'inflation.
Mmh.
Donc le prix de la place du cinéma, paradoxalement, et contrairement au ressenti, est moins cher aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et en tout cas, pas plus cher qu'aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, il n'y avait pas les cartes illimitées, par exemple. Donc c'est aujourd'hui. Et si je le prends aussi dans une idée plus large, et par exemple en Europe, la France est un des pays les moins chers en termes de place de cinéma. On est beaucoup moins cher, quasiment deux fois moins cher qu'une place en Angleterre.
Ouais.
On est le même prix qu'en Espagne, qui est pas un pays avec un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que le nôtre, etc. Donc, en fait, c'est une question de perception. Donc, oui, les salles et le cinéma en général devraient avoir une meilleure action sur le sujet, mais il y a mille manières d'aller au cinéma de manière très avantageuse. Et encore une fois, les chiffres disent que les gens qui payent le plein tarif, c'est une place sur cinq.
Ouais.
Et nous, en tout cas chez MK2, on est très engagés aux côtés de cette idée du pouvoir d'achat. Je vous dis, notamment à travers le tarif pour les moins de 27 ans à 4,90€ tous les jours en semaine.
Le président du directoire de MK2 avec nous ce matin sur Europe 1, Nathanaël Karmitz. En 2021, 10 films français ont enregistré plus d'un million d'entrées. Il y a eu Kaamelott, il y a eu Bac Nord, il y a eu Les Tuches 4. Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour les films français.
Bien sûr, pareil, en fait les films français ont pas perdu de part de marché depuis la réouverture des, enfin depuis la pandémie. Il y a beaucoup de films français qui marchent. On pourrait même citer encore de Cédric Clapiche dernièrement. Ouais. En ce moment, le film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai. Donc il y a une vraie appétence. C'est pareil, c'est une petite particularité, une fierté qu'on peut avoir en France. C'est on a une part de marché de notre cinéma national qui est très forte, qui est autour de 40% et qui n'a pas bougé depuis la réouverture. Et oui, c'est ce dynamisme-là qui donne cette particularité de la France et de la relation des spectateurs français à leur cinéma et au cinéma en général.
On l'a souvent dit, le Covid a fait du mal, bien sûr, au cinéma. Vous êtes resté à deux reprises fermé. Ça veut dire que vous payez encore les conséquences de cette pandémie ou pas ?
Oui, très 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 clairement, on est un art lent, hein. Il faut du temps pour construire les salles, il faut du temps pour faire les films, il faut du temps pour les sortir. Donc c'est très facile de fermer, c'est très compliqué de rouvrir. Et donc là on voit par exemple une accélération du nombre de films qui arrivent en salle et notamment des grands blockbusters internationaux, et c'est la diversité, c'est l'offre de films qui fait l'attractivité des salles. Et donc voilà, on paye encore ce moment où le monde s'est retrouvé à l'arrêt. Et c'est une industrie mondiale qui se remet en route, et c'est lent. Ça va encore durer quelques temps, mais encore une fois, on retrouve le petit piment et le sel de l'envie d'aller au cinéma avec ce qu'il y a à l'affiche en ce moment.
Et puis pendant ce Covid, on a découvert les plateformes. Je pense bien sûr à Netflix, 10 millions d'abonnés en plus lors du premier confinement en 2020. C'est un public là encore qu'il faut ramener dans les salles.
Je crois pas, parce que bien sûr qu'il faut le ramener, mais je pense que l'opposition des plateformes à la salle de cinéma et à la sortie est complètement théorique. C'est pas parce qu'il y a les plateformes de livraison de restaurants à la maison qui ont flambé aussi pendant cette pandémie que les restaurants marchent moins bien aujourd'hui. C'est avant tout un changement d'habitude dans la manière dont vous regardez la télévision. C'est la concurrence, c'est YouTube, les réseaux sociaux, la délinéarisation et les petits écrans en général. Ça vient pas s'opposer à la sortie. Le streaming n'a pas tué la salle de concert, bien au contraire.
Ouais.
Donc c'est deux offres qui sont complètement différentes.
Mais est-ce que finalement, pardonnez-moi, est-ce que finalement on va aujourd'hui au cinéma pour voir du spectacle, des films à gros budget, et les films français, les petites comédies, on attend que ça passe à la télévision ou sur les plateformes ?
Non, on y va pour vivre une expérience collective. Donc on y va parce qu'on a envie de sortir avec ses amis, on a envie de sortir avec son amoureuse ou son amoureux, parce qu'on a juste envie de sortir de chez soi. Et ce rapport-là, et l'idée qu'on a envie de rire et pleurer ensemble est quelque chose qui va pas disparaître de sitôt. Donc oui, il y a des nouvelles offres. Cette séparation sur l'idée qu'il y a des choses qui marchent très fort et d'autres qui marchent moins bien, c'était déjà engagé avant la pandémie. Mais je crois pas au grand changement d'habitude. Je crois beaucoup au fait que là, on a tous envie, en cette sortie de pandémie, avec cet été qui arrive, d'abord de sortir, de voir nos amis, de reprendre une vie sociale et d'essayer de reprendre de manière gloutonne notre vie d'avant. Donc l'habitude du quotidien, c'est vrai pour tous les arts, c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour le théâtre, revient, mais la manière dont c'était ancré dans notre quotidien revient progressivement parce que juste on reprend notre vie aussi progressivement.
On l'entend souvent, est-ce qu'il y a trop de films? Il est difficile de suivre le rythme, on a le sentiment finalement que les films restent très peu à l'affiche, il y en a trop, il y a un trop plein.
C'est toujours une question délicate, c'est que c'est la diversité qui fait aussi la richesse de l'offre. Après, oui, force est de constater que on ne peut pas tout voir, et même nous qui travaillons dans le cinéma, on a du mal à tout voir. Après, lesquels il faudrait sélectionner là-dedans, c'est compliqué. Je préfère qu'il y en ait trop que pas assez, et c'est une des grandes chances de la France. Et on est un des pays où il y a le plus de films au monde qui sont produits et qui sortent. Et donc, je préfère vivre avec le trop plein que le pas assez.
En tout cas, c'est la fête du cinéma. Ça commence aujourd'hui jusqu'à mercredi. Allez, quel bon film vous nous conseillez d'aller voir ?
Alors, en grand spectacle, je peux vous conseiller Elvis ou Top Gun, Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux, qui est une comédie désopilante, et pour les plus puristes, un incroyable événement cinéphile qui est La maman et la putain de Jean Eustache, ressorti en salle après des décennies perdues. Voilà, il y en a en tout cas pour tous les goûts et tout le monde trouvera son bonheur.
Et c'est 4 euros la séance, c'est avec Canal+, partenaire officiel. Le président du directoire de MK2 ce matin sur Europe 1, Nathanaël Karmitz, merci à vous, bonne fête du cinéma.
Merci beaucoup.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et avant de retrouver Mathieu Alterman, l'Info Express à 7h20, Lénaïque Monnier.
Et le député La France Insoumise, Éric Coquerel, élu président de la commission des finances de l'Assemblée, riposte dans une tribune au JDD ce matin. Il se défend des rumeurs infondées concernant son comportement envers les femmes. Un week-end studio pour l'exécutif avant l'annonce du remaniement à venir, sans doute demain. Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec Elisabeth Borne avant ce remaniement, donc juste avant également le discours de politique générale de la chef du gouvernement attendu mercredi. La guerre en Ukraine, de violents combats qui ont fait rage à l'Est. Les séparatistes affirment encercler totalement la ville de Lysychansk, la ville clé de la région. Ce que dément Kiev ce matin encore. En parallèle, le président biélorusse Loukachenko affirme que son armée a abattu des missiles tirés depuis l'Ukraine sur son pays. Et puis l'exploit d'une Française au tournoi de Wimbledon, Alizé Cornet, qui élimine au troisième tour la numéro 1 mondiale Iga Świątek. Le score 6-4, 6-2.
Rendez-vous bien sûr pour le journal de 8h. Merci Lénaïque.
Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Le soleil, les vacances, les spritz, direction le sud, direction l'Italie. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin, vous avez intitulé votre dernière chronique à la recherche de la chanson italienne perdue.
Bah, l'été est arrivé, c'est la dernière de la saison et comme oui. À chaque début de vacances, je me fais des playlists de chansons italiennes
c'est
légendaires.
Vrai. M'étonne pas.
Alors souvenez-vous du temps entre les années 60 et 90, quand la pop méditerranéenne trostait les radios et les ventes. Alors inventaire ensoleillé, on prend l'autoroute du sud avec ses chansons dans la voiture.
Oh, c'était bien ça.
Ti amo par Umberto Tozzi en 1977. Vous voyez le ciel bleu sous vos lunettes noires. L'effet est instantané. Toujours en 1977, Marcia Bazar triomphait avec Solo Tu. Écoutez, c'est du miel. Un petit tour dans l'été 82, quand Albano et Romina Power se déhanchaient sur Felicita. Felicita.
Nicolas Charpentier, notre réalisateur,
danse tout seul comme un fou.
Il est fan.
Ouais.
Nanana. Mathieu, on peut clairement dire que c'était un âge d'or de la variété italienne qui semble avoir disparu de notre pays.
Mais effectivement, Thierry, après Eros Ramazzotti en 1990, et Laura Pausini en 1993. Pratiquement plus rien. L'Italie musicale est passée de mode, ou tout du moins s'est faite beaucoup plus rare, alors qu'elle fut l'inspiration première de la chanson française pendant des lustres. Je m'explique. Vous connaissez Bambino ?
Bien sûr, la chanson de Dalida.
Eh bien non, en réalité, c'est une reprise de Guaglione par Aurelio Fiero. Vous connaissez l'été indien de Joe Dassin ?
Bien sûr.
Mais écoutez ça. Look where we are right now. On this pitiful little piece of grass. Vous connaissez Derrière l'amour de Johnny Hallyday ?
Allez-y. C'est fou ça.
C'est fou, il y a un seul compositeur derrière ces tubes, qui Toto Cutugno, qui a créé les versions originales.
Il est très très fort ce Toto Cutugno, il a été adapté des dizaines de fois par des Français alors, c'est
en
ça ?
En chantant de Michel Sardou, Laissez-moi danser de Dalida, Nous de Hervé Villard, ou encore Et si tu n'existes pas de Joe Dassin, bah
tout ça c'est
Toto. Toto Cutugno. Ainsi donc, pour cette dernière matinée, citons encore Jean Cocteau qui affirmait « Les Italiens sont des Français de bonne humeur. Enfilons nos maillots de bain, arrosons-nous dans le jardin, rêvons à cette douceur de vivre. Bon dimanche, bonnes vacances et allez, chantons Ricci et Poveri à fond pendant le voyage. »
Ah oui. Ça porque ti amo.
Bonnes vacances, Thierry.
Bonnes vacances, Mathieu. Ce doit être parce que je t'aime. C'est pas à vous que je dis ça. Bel été. On vous retrouvera, Mathieu, cet été, bien sûr, tous les week-ends dans la matinale aux côtés de Lénaïque Monnier. Merci, merci, merci pour votre bonne humeur. Merci pour vos infos. Merci pour tout, Mathieu.
À très vite.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Et on vous lit avec plaisir pour cette dernière matinale week-end de la saison sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. 7h40, notez-le bien dans la presse ce matin. Et puis à 8h moins le quart, ça vous concerne. On va parler de la SNCF, plein de réponses très concrètes ce matin. Pour l'heure, il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Arthur Delaborde. Bonjour Arthur.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Avant le grand rush attendu pour le week-end prochain, les premiers vacanciers de juillet arrivent, notamment sur la côte atlantique. Soleil et détente totale dans ce camping à Saint-Brévin où vous vous êtes rendu, Charles Guyard.
Assis sur les marges de son bungalow, guitare à la main, Patrick fredonne un air d'Eddie Mitchell. Allongé dans un transat à côté, Pascal s'accompagnait aux anges.
Oui, il me fait la sérénade, voilà.
De la musique douce pendant la sieste avec la plage à une centaine de mètres. Bref, le paradis, comme le nom de ce camping de Saint-Brévin-les-Pins, où les vacances ont bel et bien commencé, le patron Nicolas Cherrier.
La saison se présente plutôt bien. Avec le beau temps, tout le monde commence à arriver. Cette année, on voit arriver à nouveau la clientèle étrangère.
Des étrangers comme Val, elle est irlandaise et avec sa famille, elle n'avait plus traversé la Manche depuis 3 ans.
On vient chaque année et avec le Covid, c'était juste pas possible. Et là, on est ici, on est heureux.
Heureux comme cette famille arrivée de moins loin, hein, d'Ille-et-Vilaine, pour quelques jours de repos.
Là, ça va être la plage, se promener, marcher.
Un joli programme qu'Isabelle n'entend pas voir gâché par une reprise de l'épidémie de Covid.
Seules vagues qu'on aura viendront de la mer.
Une mer calme, un ciel ensoleillé et un peu de légèreté. C'est le début de la saison d'été.
J'ai du regard un spot. Voilà.
Saint-Brévin, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà, et pour les vacanciers, prendre l'avion cet été pourrait bien ressembler à un chemin de croix. Entre les mouvements sociaux et le manque d'effectifs, attendez-vous à de nombreuses annulations de vols. Hein.
Un préavis de grève a d'ailleurs été déposé pour le week-end prochain à Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport parisien déjà perturbé hier. Alors en cas de problème, comment se faire rembourser ou indemniser? Quels sont vos droits en matière d'annulation? Eh bien sachez qu'un règlement européen encadre les pratiques des compagnies aériennes. Explication de Jérémy Rosenberg, il est directeur des opérations chez Air Indemnité, une entreprise qui sert d'intermédiaire pour faciliter les démarche de réclamation.
Lorsqu'un billet est annulé, donc la compagnie doit rembourser le billet si elle n'a pas proposé de vol de réacheminement aux passagers. Donc il y a, si on doit être très très exhaustif, les frais de prise en charge. Donc si votre vol est retardé de plus de 2 heures, la compagnie doit vous proposer des frais de restauration pour patienter jusqu'au vol. Si jamais votre vol est annulé avec un report au lendemain, la compagnie doit prendre en charge les frais d'hôtel liés à l'annulation qui vont engendrer des frais supplémentaires. Et au-delà du remboursement de tous ces frais, si le passager n'a pas été prévenu au moins 14 jours avant la date du vol, elle doit lui verser cette indemnité compensatoire au regard du préjudice subi de 250 à 600 euros, qui dépend, elle, de la distance du vol.
Des propos recueillis par Geoffrey Branger.
À 7h33, le député Éric Coquerel dénonce des rumeurs infondées sur son attitude avec les femmes.
Il le fait dans une tribune publiée aujourd'hui dans le journal du dimanche. Le nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée nationale assure n'avoir jamais exercé de violence physique ou psychologique pour obtenir un rapport avec une femme. Qui pour remplacer les ministres battus aux législatives? Des questions au cœur des dernières discussions à l'Élysée et à Matignon ce dimanche. Le remaniement est en effet attendu demain. La première ministre Elisabeth Borne doit aussi choisir des personnalités, évidemment à même d'élargir sa majorité désormais relative.
Le tennis avec cet exploit de la Française Alizée Cornet hier à Wimbledon. Elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Polonaise numéro 1 mondial.
Iga Swiatek qui venait pourtant de signer 37 victoires d'affilée, un record. Mais c'était donc sans compter sur la niçoise de 32 ans qui a survolé la rencontre sur le gazon londonien.
C'est évidemment une de mes plus grosses victoires en carrière, mais après j'y croyais. Voilà, tout simplement j'y croyais. Je me disais que j'avais une chance aujourd'hui de pouvoir la battre et je me suis vraiment accrochée à ça. Pourquoi pas moi finalement? En tout cas, j'ai une grande fierté d'avoir accompli ça et maintenant j'ai envie que ça continue parce que l'aventure n'est pas finie.
Alizée Cornet avec Colin Abgral. En football, les Marseillais n'ont pas traîné pour trouver un nouvel entraîneur. À peine 24 heures après l'annonce du départ de Jorge Sampaoli, l'OM a signé un accord de principe avec Igor Tudor. Le Croate était jusqu'ici à la tête du club de Vérone en Italie. Il devrait rencontrer les joueurs marseillais dès demain.
4 euros la séance dans toutes les salles obscures. C'est le début aujourd'hui de la fête du cinéma. Et pourquoi ne pas en profiter pour aller voir le film qui cartonne en ce moment?
Le second volet du mythique Top Gun en partenariat avec Europe 1. C'est le plus gros succès en cours dans l'Hexagone. Il vient de franchir la barre des 4,3 millions d'entrées.
Ah oui.
Nouvelle plus que réjouissante donc pour l'acteur Tom Cruise qui au passage fête aujourd'hui ses 60 ans.
Bel anniversaire à lui, c'était le journal d'Arthur Delaborde. Merci à vous, à tout à l'heure. Allez, le journal du Tour à présent.
Europe 1. Le journal du Tour.
Et c'est avec notre envoyé spécial au Danemark, Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Alors deuxième étape hier entre Roskilde et Nyborg et déjà un deuxième maillot jaune sur la route du Tour.
Oui, et c'est un autre Belge, hein, Wout van Aert, qui portera le maillot jaune cet après-midi. Déjà deuxième du contre-la-montre vendredi, le coureur de la Jumbo-Visma a remis ça hier, battu cette fois par Fabio Jakobsen. Mais grâce aux bonifications, il devance désormais Yves Lampaert au classement général. Le Flamand n'a pas vraiment déçu d'abandonner sa tunique jaune.
Je suis heureux pour l'équipe. C'est un peu dommage que j'ai perdu le maillot, mais c'est comme ça. Le plus important, c'est on prend le deuxième victoire.
Et oui, hein, car c'est un des coéquipiers de Lampaert qui s'est imposé hier, Fabio Jakobsen, donc sa 11e victoire cette saison, probablement la plus belle. Et pour son équipe, un Quick-Step, c'est un carton plein, deux étapes, deux victoires. De quoi faire oublier l'absence de Julien Alaphilippe, un non sélectionné, lui qui revient à peine de blessure.
Et du côté des Français justement, Martin.
Eh bien, la journée a été plutôt calme, hein, même si une équipe s'est montrée, BNB Hotel KTM. Deux de ses coureurs étaient dans l'échappée matinale, Pierre Roland et Cyril Barthes. Et s'ils ont été rapidement repris, ils n'ont pas tout perdu. Écoutez Cyril Barthes.
On a voulu se relever pour aider au maximum Jérémy Lecron, notre sprinter. Et je pense qu'on a fait quand même du bon boulot sur la fin, on était toujours présents. Ça a été une journée quand même, une bonne journée malgré tout. Je crois qu'il fait 7e à l'arrivée, c'est de bon augure. 9e du poisson pilote aussi, donc on est dans le match et c'est ça qui compte.
Jérémy Le Croc hein, qui termine donc premier français. Et parmi les fuyards du jour, il y avait aussi Magnus Cort Nielsen, le Danois qui a empoché tous les points de la montagne hier et qui revêt donc le premier maillot à poids de ce Tour de France 2022 devant son public.
Martin, on a beaucoup parlé de ce fameux pont de 18 km que les coureurs ont traversé. Hein.
Oui, on craignait des bordures, hein, des cassures dans le peloton qui auraient pu coûter du temps à certains favoris. Mais finalement, il ne s'est quasiment rien passé sur ce pont. La faute au vent, pas orienté idéalement puisqu'il était de face. Alors si on n'a pas assisté à des manœuvres d'envergure, les coureurs, eux, n'ont pas chômé, à en croire le français David Godu.
C'était détendu, mais c'était pas détendu quand même. Sur le tour, même si à la télé, on a l'impression que c'est détendu, ça reste quand même tendu, ça frottait. Tout le monde voulait quand même être placé parce que voilà, il y a toujours... toujours cette peur de la chute et tout, donc non, c'était quand même, fallait rester placé, il y avait énormément de vent, donc voilà, toute l'équipe a fait un super boulot, donc un grand merci.
Pas de bordure, mais des chutes, le maillot jaune Yves Lampaert est allé au sol, sans gravité, tout comme un des outsiders de ce tour, l'Australien Ben O'Connor.
Alors aujourd'hui, c'est la dernière étape au Danemark, hein.
882 km entre Vælje et Sønderborg, une étape a priori plus classique qu'hier, hein, pas de pont, pas de difficultés majeures, mais attention encore une fois au vent, c'est vrai hein, qu'il est très présent ici au Danemark, une étape qui sera surtout particulière pour Kasper Asgreen, le Danois évoluera sur ses terres, le peloton va même passer tout près de sa maison.
La quasi-totalité de l'étape est sur mes routes d'entraînement, je vis à peu près au milieu du parcours. Je pratique ces roues depuis plus de 12 ans maintenant. Je crois qu'on va passer à 150 mètres de ma porte d'entrée. Ça va être vraiment très spécial.
Kasper Asgreen qui tentera de s'illustrer chez lui cet après-midi. Arrivée prévue à Sønderborg un peu après 17h.
À suivre bien évidemment avec vous Martin Lange. On vous retrouve avec Axel May dans les flashs et ce soir pour le Club Tour. Allez, à 7h39, on regarde le temps avec vous Valérie Darmon, avec des maximales encore en hausse dans le sud-est.
Effectivement, de l'air très chaud qui remonte du Sahara pour venir toucher tout le sud-est de la France où les températures dépassent 35 degrés cet après-midi avec des pointes possibles à 40 hein, du Languedoc à la Provence. Alors que près de la Manche, vous avez du mal à dépasser les 20 degrés, notamment à cause du vent du nord et de nombreux nuages alternants avec quelques belles éclaircies le long de la Manche. Partout ailleurs, très beau début de matinée jusqu'au déjeuner avant que des cumulus ne se développent et que les orages se mettent en place du bassin aquitain et des Pyrénées aux Alpes.
Merci beaucoup Valérie. Ne bougez pas, bien sûr, on se retrouve à 8h moins le quart pour Ça vous concerne avec Roland Pérez. Gros dossier hein, ce matin sur la SNCF. A tout de suite. Mais d'abord la une du JDD avec son directeur de la rédaction. Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin à la une du JDD des anneaux olympiques et quelques inquiétudes.
Effectivement, nous titrons ce week-end sur les JO et les alertes sur Paris 2024. Nous sommes à 2 ans de la tenue de cette fête planétaire qui est prévue dans la capitale entre le 26 juillet et le 11 août. Et des inquiétudes se font jour sur la capacité des organisateurs à délivrer en temps et en heure ce qu'ils ont annoncé comme devant être les Jeux les plus responsables et les plus spectaculaires de tous les temps. Une réunion au sommet doit se tenir le 12 juillet prochain avec le conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO. Et certains acteurs de cette instance n'hésitent plus à faire part de leurs préoccupations. Patrick Caram, le vice-président de la région Île-de-France chargé des sports, n'y va pas par quatre chemins. Je le cite, « Nous avançons dans le brouillard, le manque de préparation est patent. Dans la dernière ligne droite, on découvre que tel site est pollué, que telle épreuve doit déménager, que tel coût a explosé, ce n'est pas sérieux. » Vous voyez, ça donne un peu le ton. Et un autre pilier du conseil d'administration, Guy Drut lui-même, s'interroge sur la cérémonie d'ouverture qui doit se tenir sur les bords de Seine, avec des barges flottantes sur lesquelles seront installés les sportifs. Et il nous confie ne pas avoir pris part au vote sur cette cérémonie, car on est allé beaucoup trop vite.
Alors face à ces critiques et à ces doutes, on vient de l'entendre, vous avez interrogé le président du comité d'organisation, Tony Estanguet.
Oui, et le patron de Paris 2024, qui est lui-même un ancien champion olympique de canoë, insiste sur le fait qu'il faut garder son sang-froid. Il assure que l'organisation saura tirer les enseignements des incidents du Stade de France pour renforcer les dispositifs de sécurité, que ce soit en Seine-Saint-Denis comme autour de la cérémonie d'ouverture. Estanguet souligne aussi que la préparation des Jeux est évidemment bousculée par 2 ans de Covid, une guerre internationale et par l'inflation. Et il reconnaît « on sait qu'on va être impacté, on ne sait pas de combien ». On le voit donc, la route pour Paris 2024 est encore longue.
Alors Stéphane, dans un tout autre registre, vous publiez ce matin les premières explications d'Éric Coquerel qui fait l'objet d'une accusation d'agression sexuelle.
Oui, tout juste élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le député de la France insoumise a vu ressurgir une rumeur qui le poursuit depuis des années. Et cette fois, c'est publiquement qu'il a été pointé du doigt par la militante féministe Rokhaya Diallo. Dans un long texte, il affirme ne jamais avoir exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport. Nous allons voir maintenant si cette mise au point est de nature à clore la polémique.
Merci beaucoup Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du JDD. On feuillette également les autres unes de la presse. Ce matin, l'épreuve du feu en une du Parisien aujourd'hui en France avec en photo Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Remaniement attendu demain, le remaniement le plus compliqué de son quinquennat, explique le Quotidien. Une grande photo dans une gare en une de Ouest-France et ces voyageurs qui attendent sur leur valise, transport, Covid, les vacances démarrent mal. Un été qui s'annonce compliqué avec des grèves dans l'aérien, mais également à la SNCF, vous le savez, ce sera mercredi prochain. En une de La Provence, Tudor arrive, le coach croate est attendu demain à l'Olympique de Marseille pour signer son contrat de 2 ans avec le club. Igor Tudor, nouvel entraîneur donc de l'OM. Et puis, en une de l'équipe, elle lève les bras, elle est ovationnée, sensationnelle, cornet titre le quotidien sportif, là. 37e joueuse mondiale, la française Alizé Cornet, qui a renversé hier la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, à Wimbledon. Allez, dans un instant, Valérie Darmon, Roland Pérez, ça vous concerne avec notre dossier. Dossier important ce matin sur la SNCF. A tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous, informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne, votre rendez-vous pratique du dimanche. Et c'est la dernière. Non. Mais oui, rebonjour Valérie, bonjour Roland.
Bonjour à tous.
Alors c'est l'heure des grands départs pour certains. Annulations, échanges, retards, incidents, bagages perdus ou à rajouter sur la note, billets qui changent de prix en permanence. La SNCF encaisse moins d'argent en dépit d'un été qui s'annonce exceptionnel et une grève qui est prévue mercredi prochain. Alors comment nous, consommateurs, on s'y retrouve? Quels sont nos droits? Et surtout comment éviter de galérer si on veut prendre le train pour partir en vacances? Parce que bien sûr, l'essence est trop chère. C'est votre dossier ce matin, Valérie.
Effectivement. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que 15 000 trains vont circuler chaque jour, tout l'été.
Et ah ouais, oui, par jour.
Plus de 6 000 transiliens, 800 TGV intercités, 9,5 millions de billets à ce jour ont été réservés, 10% de plus qu'en 2019. La SNCF a débloqué 500 000 places supplémentaires pour les 2 mois à venir. Donc, si on arrive à l'heure, au bout du quai, vous ne devriez pas, vous et moi non plus, d'ailleurs, quand je serai en vacances, avoir de problèmes, évidemment.
Alors, on va évoquer ce matin, bien sûr, tous les problèmes possibles. On va commencer par le début, Valérie, avec la réservation du billet de train.
Oui, le casse-tête. Alors, le train qui a augmenté de 12,9% en un an. L'aérien, 22%. Alors, les locations de voitures, de 40%. Premier problème, les tarifs qui bougent non-stop et qui fait que la SNCF a vendu 2% de billets en plus, mais que le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 3%. ce qui montre que le panier moyen a baissé aussi.
Et c'est vrai que dans un train à côté de soi, on peut avoir quelqu'un qui a le même billet, la même destination, mais à moitié prix. Pourquoi ces prix, ces tarifs, ils fluctuent comme ça?
Parce que sur Internet, c'est un robot qui recense les prix des billets avec quatre antériorités d'achat. Deux jours, 10 jours, 30 jours, 60 jours avant le départ du train. Pour un échantillon de 250 trajets aller simple. Donc la SNCF, elle commercialise ses billets les moins chers jusqu'à 90 jours avant le départ. Et ce principe fait varier les prix en fonction de la demande et des dates de voyage. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le yield management, c'est-à-dire en traduction, le rendement.
Ça veut dire quoi? Donnez-nous un exemple.
Alors un exemple, par exemple, si un train a une place qui se vend à 200 euros à un instant T et une autre à 100 euros, eh bien l'entreprise va faire la moyenne de 150 euros, quels que soient les prix. De toute façon, cet été, c'est exceptionnel.
Valérie, quelles sont les règles à connaître pour éviter de galérer?
Alors moi, je réponds à votre question par une première question juridique à Roland sur la grève du 6.
Maître, aidez-nous.
Est-ce qu'en cas de grève, on peut se faire rembourser son billet?
Alors déjà, moi, mon conseil, si on ne veut pas galérer le 6 et si on pense que vraiment ça va être la grève va être effective, on peut, avant le départ, faire une demande d'échange ou de remboursement. Et d'ailleurs, c'est sans aucun frais pour tout type du billet, même si le billet n'était ni échangeable ni remboursable.
D'accord.
Après le départ, on peut évidemment demander le remboursement également. Alors, en fonction du type de train, on va le faire en ligne pour tout le monde. Et en fonction du type de train, bah, on va s'adresser soit à la SNCF pour les TGV et Train Lycra, Thalys, on va aller en Belgique, et pour l'Eurostar, on ira en Angleterre.
Valérie.
Eh ben, pour les autres infos pratiques, je vous propose de recevoir ce matin Laurence Olivier. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Si on doit annuler son départ à la dernière minute, est-ce qu'on peut être remboursé?
Ben, la réponse varie en fonction des trains. C'est non pour un billet Ouigo, mais c'est oui, par exemple, pour les TGV Inouï et les trains intercités, mais pas à n'importe quelle condition, puisque remboursement total jusqu'à 3 jours avant votre départ, mais ensuite, dès 2 jours avant le départ, vous supporterez des retenues, 15 euros par personne et par trajet sur les TGV Inouï, et maximum 12 euros sur les intercités.
Laurence Olivier, d'autres questions? Est-ce qu'on a le droit de revendre son billet de train?
Ben oui, justement, bonne question. Si on n'arrive pas à se faire rembourser, on pourrait être tenté de revendre son billet. Mais malheureusement, non, vous ne pouvez pas le faire pour tous les e-billets, billets électroniques. Ouais. En revanche, si vous avez un billet cartonné classique, c'est possible d'effectuer cette revente sans, bien sûr, les vendre plus cher que vous ne les avez achetés.
En cas de retard, remboursement ou pas?
Alors, ben, j'avais envie de vous dire, c'est la question à ne pas poser, tellement la réponse est un vrai casse-tête. Eh ben, oui. Comme toujours avec la SNCF, ça dépend des trains et de la durée du retard. Mais dans la plupart des cas, un retard minimum d'une demi-heure ou de plus d'une heure pour un Ouigo ou un Eurostar vous ouvre droit à une compensation sous forme soit de bons d'achat, soit de virement.
Par exemple, oui, allez-y.
Un petit exemple, hein, TGV Inouï, entre 30 minutes et 1 heure de retard, la compensation égale 25% du prix, mais en bon d'achat. Et au maximum, en cas de retard supérieur à 3 heures, ça va être 75% d'indemnisation, soit en bon d'achat, soit sous forme de virement.
Merci beaucoup Laurence Olivier, journaliste à 60 millions de consommateurs, spécialiste des transports.
Alors du coup, moi j'ai une question pour Roland. À qui on s'adresse si litige il y a et surtout si on n'obtient pas gain de cause?
Alors d'abord, au service client de la SNCF, c'est la première chose à faire. Et ensuite, vous avez le médiateur de la SNCF sur servicepublic.fr qui est très armé, qui connaît parfaitement bien tous les litiges qui peuvent se présenter et qui va vous répondre assez rapidement. Et puis au pire, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Mais enfin, je ne vous le conseille pas parce que le médiateur généralement est là pour vraiment trouver une solution.
Merci Roland, merci Valérie. Vous ne bougez pas bien sûr Roland, on parle de quoi dans un instant?
Alors des nouvelles dispositions pour les promotions trompeuses et des factures de téléphone portable quand on part en vacances à l'étranger.
Allez, à tout de suite sur Europe.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
8h10, l'Info Express, Arthur Delaborde.
Éric Coquerel se défend ce matin, mis en cause pour son comportement avec les femmes. Le député de la France Insoumise parle de rumeurs infondées dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. « Je n'ai jamais exercé de violence physique ou psychologique pour obtenir un rapport avec une femme », écrit notamment le nouveau président de l'influente commission des finances de l'Assemblée nationale. Les perturbations sont terminées, en tout cas pour le moment, à Roissy-Charles de Gaulle, mais les négociations entre les salariés et la direction du groupe Aéroport de Paris n'ont rien donné. La grève est donc reconduite suite le week-end prochain. La crèche de Lyon, dans laquelle un bébé de 11 mois a trouvé la mort la semaine dernière, est fermée pour 3 mois. Fermeture administrative décidée par la préfecture du Rhône. Elle entend vérifier les conditions de fonctionnement de l'établissement. Une employée a été mise en examen pour homicide volontaire. Elle a reconnu avoir fait boire à l'enfant un produit toxique pour qu'il arrête de pleurer. Alizé Cornet met fin à une série de 37 victoires d'affilée d'Iga Swiatek, exploit de la Française à Wimbledon. Elle a battu hier en 2-7 la Polonaise numéro 1 mondiale de tennis. Et puis la troisième étape du Tour de France promise aux sprinteurs aujourd'hui au Danemark. Le Belge Wout van Aert portera le maillot jaune. Hier, c'est le Néerlandais Fabio Jakobsen qui a remporté la deuxième étape.
Et merci Arthur, à tout à l'heure.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne, deuxième partie, dernier rendez-vous de la saison, vous le savez, les questions pour Roland Pérez. Êtes-vous prêt, maître ?
Je suis prêt à répondre à toutes vos questions.
Première question, en plein dans l'actualité, les soldes et plus précisément les promotions trompeuses, la loi vient de se durcir.
Oui, c'est une directive européenne qui a été transposée dans notre droit interne et elle vise effectivement les fausses promotions, mais pas seulement Thierry, les faux avis également laissés sur des forums et les plateformes dédiées, ainsi que les démarchages à domicile qui sont de plus en plus abusifs.
On commence par les promotions dites trompeuses, de quoi s'agit-il précisément ?
Alors avant, il n'y avait que les soldes, vous savez, où le commerçant était obligé d'indiquer le prix initial et à côté le prix soldé. Mmh. Eh bien aujourd'hui, il est rendu obligatoire l'indication du prix antérieur en cas de réduction successive. Le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours précédant la promotion doit être indiqué donc pour toutes les promotions alors qu'avant, ce n'a été réservé qu'aux soldes.
Valérie ?
Alors, cette obligation généralisée désormais aux promotions concerne aussi les achats en ligne ?
Oui, toutes les annonces de réduction de prix, qu'elles soient pratiquées en ligne ou en magasin. Et la sanction, écoutez-moi bien, est très lourde en cas de non-respect de cette nouvelle obligation imposée aux commerçants, c'est 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Donc les soldes, le Black Friday, les autres journées spéciales de promotion, la DGCCRF est sur le pont pour contrôler et sanctionner.
Bien, venons aux faux avis laissés pour, on le sait, déstabiliser la concurrence par exemple. Que prévoit la nouvelle réglementation, Roland ?
Alors le vendeur qui publie l'avis en question pour essayer de se faire valoir, d'essayer de promouvoir au mieux ses produits, doit contrôler la réalité et la fiabilité de l'avis en question. Il faut qu'il vérifie que le client a bien acheté le produit ou a bénéficié du service proposé. Et là encore, les peines sont lourdes, 2 ans d'emprisonnement et toujours 300 000 euros d'amende.
Ouais. Roland, qu'est-ce qui se passe dorénavant pour le démarchage à domicile ?
Il faut s'assurer vraiment que celui qui va se déplacer est bien pris rendez-vous et l'accord surtout de la personne visitée pour vendre un produit ou un service. En fait, le client potentiel doit être très clair sur le refus d'être importuné, avec à la clé une peine d'un an de prison et 150 000 euros d'amende.
Alors, on passe à la deuxième question. Beaucoup sont sur le point de partir en vacances et cette année, probablement à l'étranger, faute d'avoir pu s'y rendre les 2 étés précédents. Eh bien, il y a bien évidemment le portable qu'on va emporter en voyage, mais à quel prix ? On parle du coût des communications et des fois, c'est le coup de bambou, on va dire.
Alors, on doit distinguer, Thierry, les tarifs appliqués selon que l'on utilise son portable au sein de l'un des pays de l'Union européenne. Et là, j'ai une très bonne nouvelle pour vous.
Ouais.
Vous verrez que tout est gratuit quasiment, enfin tout est compris en tout cas dans votre forfait.
Très bien.
Et si vous voyagez plus loin en dehors de l'Union, ce n'est pas la même musique. Alors, pour ces pays dits lointains, il faut impérativement appeler son opérateur pour savoir quelle est la tarification applicable pour les appels, les SMS et surtout, je vous le dis, l'utilisation de l'Internet depuis son smartphone, parce qu'on peut avoir de très mauvaises surprises.
Ah ouais.
Dans la plupart des cas, les appels depuis l'étranger sont surtaxés et facturés hors forfait. C'est ce qu'on appelle les frais d'itinérance. D'ailleurs, vous savez, dans les réglages de votre téléphone, vous avez itinérance et vous désactivez cette fonction pour ne pas justement être appelé ou ne pas pouvoir appeler vous-même à l'étranger. Les tarifs peuvent varier de 1,20 euros la minute à près de 4 euros la minute.
Ah ouais. Valérie ?
Oui, la solution, Roland, pour utiliser un portable à l'étranger, c'est de disposer, je crois, d'un forfait Free.
Alors, c'est vrai que Free a un prix forfaitaire qui est vraiment imbattable, de 20 euros par mois. Et là, on dispose en illimité d'appels, téléphones, SMS et MMS vers de nombreux pays comme les USA, Canada, Chine, Australie, Afrique du Sud. Il y a comme ça 70 destinations. Bon, les autres opérateurs aussi pratiquent des prix forfaitaires, mais plus chers, d'où l'intérêt de se renseigner avant de partir.
Au sein de l'Union européenne, Roland, comment ça se passe ?
Alors très vite, les appels émis et reçus à SMS sont équivalents à ceux pratiqués en France.
Ouais. Pour l'utilisation de l'Internet quand on voyage en Europe ?
A priori, pas de surfacturation, sauf si votre forfait est illimité. Dans ce cas, vous allez être amené à acheter des, ce qu'on appelle des gigaoctets au cours de votre séjour si vous faites un usage continu d'Internet sur votre portable, qui n'est pas très raisonnable.
Autre chose à déclarer, maître ?
Non, rien d'autre à déclarer, si ce n'est que j'ai été ravi de faire cette saison avec vous. Oui, et on se retrouve à la rentrée.
Moi voilà, plaisir. Merci à vous deux, bien évidemment. Merci à toute l'équipe de la matinale week-end. Merci à Nicolas Charpentier, notre réalisateur, à Ali Martizen, notre programmatrice Vanessa Zah, qui a coordonné tout ça. Également, bien sûr, merci aux auditeurs d'avoir été là à nos côtés. Un peu de musique, j'ai trouvé ça pour vous. Voilà, c'est fini la vie, les amis.
Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. Peut-être après-demain, je te retrouverai. Car c'est fini. C'est fini. Me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. J'ai fini par me dire que peut-être on va guérir.
Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini pour cette dernière matinale week-end de la saison. Ce sera Lénaïque Monnier le week-end prochain et bien sûr tout à l'heure à 9h. Matinale pas totalement terminée, restez avec nous. À suivre le journal de 8h et l'interview. Je recevrai l'infectiologue Benjamin Davido. L'été sera-t-il gâché par le Covid ? À tout de suite sur Europe 1.